Docteur Ted Hildebrand, Proverbe 22, s'il éduquait un enfant. Vide, Journal théologique Grèce 9.1, 1988, mars 2019. Copyright 2024 Ted Hildebrand. C'est le docteur Ted Hildebrand dans son enseignement sur Proverbe 22.6, éduquer un enfant sur la voie qu'il doit suivre. Bienvenue dans nos présentations de Proverbe 22.6, le verset très connu et issu du livre des Proverbes, éduque un enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Nous voulons donc explorer ce verset aujourd'hui et voir son potentiel ainsi que ses problèmes potentiels. Le verset a été utilisé au fil des années pour encourager et souligner l'importance de l'éducation des jeunes enfants par les parents et des choses de ce genre. Cela a donc été un encouragement, éduquer un enfant quand il est jeune, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Et les encouragements des parents à s'engager dans l'éducation de la petite enfance donnent de l'espoir à beaucoup. Vous élevez bien vos enfants et votre enfant s'avère bien. Et les résultats sont garantis parce que l'Écriture dit que vous les formez correctement. Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Cela donne donc de l'espoir à de nombreux parents qui se trouvent au milieu du chaos de notre culture actuelle. L'espoir aussi, si l'enfant s'égare, que les parents essaient de l'éduquer du mieux qu'ils peuvent, supposons qu'au lycée, il commence à fréquenter de mauvais enfants et des choses comme ça, il s'égare, qu'à la fin, ils reviendront. Et ainsi, c'est une sorte de vieux prodigue qui revient alors, qui enseigne à un enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas, il reviendra. Et cela donne encore une fois de l'espoir de ce point de vue également. Il y a cependant une certaine anxiété inhérente à ce verset, à savoir que si vous avez la possibilité d'éduquer un enfant comme il devrait le faire, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Ensuite, il y a aussi une certaine anxiété, et si vous le faites mal? Et si vous vous trompez? Vous risquez de causer des dommages permanents à l'enfant, de sorte que lorsqu'il sera vieux, il s'égarera au lieu d'aller tout droit. Et donc, vous pourriez également blesser l'enfant avec cela. Et l'incertitude maintenant, qu'est-ce que c'est? Et quand j'étais un jeune parent et que j'avais 4 enfants, maintenant ils sont adultes. La question est, que signifie faire les choses correctement, comme il faut le faire? Qu'est-ce que cela signifie exactement, étant donné notre culture et les contraintes du travail et d'autres situations familiales qui rendent très, très complexe la détermination de la bonne chose à faire? Quelles sont les bonnes écoles dans lesquelles placer les enfants? Quels sont les bons types d'activités à faire faire à l'enfant? Comment allons-nous gérer notre famille au milieu de toute l'agitation de la vie? Donc, l'incertitude quant à ce que signifie faire les choses correctement, comme cela devrait être. D'un côté, certaines personnes disent, eh bien, l'enfant s'est bien comporté et vous avez donc un bon enfant. Et donc cela prouve que le parent était bon. Est-ce que ça marche toujours? Un bon enfant se révèle toujours un bon parent. Est-ce toujours vrai? Et puis, qu'en est-il d'un mauvais enfant? Le doigt au se sort pour vous accuser d'être un mauvais parent. L'enfant s'est égaré. Vous ne devez pas l'avoir correctement entraîné. Parce que si vous l'entraînez dans la voie qu'il doit suivre, alors quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Et donc cela prouve que le parent était bon. Est-ce que ça marche toujours? Un bon enfant se révèle toujours un bon parent. Est-ce toujours vrai? Et puis, qu'en est-il d'un mauvais enfant? Le doigt au se sort pour vous accuser d'être un mauvais parent. S'il s'en écarte, il doit y avoir eu un problème dans sa formation dans la petite enfance. Est-ce toujours vrai aussi? Quoi qu'il en soit, nous souhaitons explorer certaines de ces choses. C'est le genre d'utilisation actuelle de ce verset et comment il est utilisé. Beaucoup d'entre nous connaissent la douleur d'un enfant prodigue. Et ainsi, vous obtenez, par exemple, dans les Écritures, des exemples, disons de Matthieu 23.37, de Dieu lui-même étant impliqué dans une partie de la douleur de cela. Matthieu 23.37 dit ceci, « Ô Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui y sont envoyés. Combien de fois, c'est Dieu qui parle, je l'aurais fait, ou Jésus qui parle, je l'aurais fait, j'aurais rassemblé vos enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et tu n'étais pas disposé. » Et voyant la douleur et la lamentation de cela, « Ô Jérusalem, Jérusalem, je t'aurais rassemblé comme bon, mais tu n'en aurais aucune part. » Osée 11.1 en est un autre. « Quand Israël était enfant, je l'aimais. Et hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Plus on les appelait, plus ils s'éloignaient. Ils continuaient à offrir des sacrifices aux Baals et des holocaustes aux idoles. Donc c'est Dieu qui parle aussi. Et donc c'est un, vous voyez la douleur qui vient lorsqu'un parent a fait de son mieux, ou a essayé de ce qu'il pouvait, ou sachant qu'il a fait une erreur et ensuite est tenté par l'égarement de l'enfant. Et vous voyez même Jésus se lamenter sur Jérusalem et sur son désir de rassembler ses enfants comme des poules. Et puis Osée 11, Dieu disait à Israël qu'il les avait rassemblés auprès de lui alors que ses enfants et son fils s'étaient égarés. Et puis Proverbe 10.1, par exemple, dit qu'un fils sage apporte de la joie à son père, mais qu'un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Et voilà que vous comprenez que l'enfant peut causer une grande joie émotionnelle à un parent. Mais d'un autre côté, le potentiel de dégâts est énorme. Et beaucoup de parents l'ont ressenti. Alors, commençons par en discuter et nous ferons juste une sorte d'introduction, puis nous aborderons chacun des termes. Que signifie s'entraîner? Que signifie la voie à suivre? Et puis nous rassemblerons tout cela et tout. Mais avant de faire cela, je pense que nous devons comprendre qu'un proverbe n'est pas une promesse. Et c'est une chose absolument cruciale, un proverbe n'est pas une promesse. C'est ce qu'on appelle le genre. C'est un genre proverbial. Cela a à voir avec les proverbes. Les proverbes ne sont pas comme la littérature normale. Ce ne sont pas des vérités absolues. Vous dites, eh bien, c'est dans la Bible. Ça doit être vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est proverbialement vrai. Et c'est ce qu'il faut faire, donnons quelques exemples. Proverbe chapitre 10, verset 4 dit ceci, « Une main molle produit la pauvreté, mais une main diligente enrichit. » Est-ce toujours vrai? Une main relâchée engendre la pauvreté. Connaissez-vous des enfants qui ont grandi et qui étaient paresseux et pourtant riches? Leurs parents étaient riches, ils leur ont donné de l'argent ou quelque chose comme ça, ou ils sont tombés dans quelque chose qui se trouvait là, non pas à cause de leur propre action ou de leur propre diligence, mais parce que c'est ainsi qu'ils sont tombés dans cette situation. Où la main des diligents enrichit. Est-ce toujours vrai? Je connais des gens qui travaillent vraiment très dur et qui ne deviennent pas riches. Et beaucoup de ces gens, en particulier ces jeunes enfants, les millénials, la génération Z et des choses comme ça, travaillent d'arrache-pied, mais ils l'ont fait, quand ils pensent à acheter une maison et qu'ils sortent pour acheter une maison et la maison les prix sont quoi maintenant? Plus de 400 000 dollars. Et ces enfants ont des dettes à l'université. Comment font-ils? Mais ils travaillent d'arrache-pied. Donc, mais la main des diligents enrichit. Enfin, vraiment tout le temps. D'accord. Avez-vous vu des gens diligents? Mon père était extrêmement diligent, il travaillait dans une usine pendant des années et fabriquait des cacahuètes. D'accord. Et il y a même une chanson d'Oliver Anthony, Rich Man, North of Richmond. Et il se plaint de travailler d'arrache-pied et que l'argent ne vaut rien. Et en fait, mon père a fait ça pendant une grande partie de sa vie. Il n'est jamais devenu riche, mais il a travaillé dur. Il a travaillé beaucoup plus dur dans sa vie que moi dans la mienne. Donc sois prudent. Un proverbe n'est pas une promesse. L'histoire n'est pas une loi. Et j'essaie juste de montrer ici comment les différents genres d'écriture doivent être compris différemment. Et ils abordent la vérité différemment. Ils présentent la vérité, mais c'est la vérité au sein d'un certain genre littéraire. Et il faut comprendre ça. Ainsi, par exemple, l'histoire n'est pas une loi. Alors, que trouve-t-on dans les livres historiques? Abraham ment à propos de sa femme. Il dit, Sarah, belle femme. C'est ma sœur. Elle est ma sœur. Parce qu'il ne veut pas se faire tuer par un pharaon ou plus tard par Abimélech, le roi des Philistins. Et alors, il dit, dis que tu es ma sœur, mec. Alors ils ne s'en prennent pas à moi. Et donc, c'est ma sœur. Et il ment ainsi deux fois. Et en fait, Isaac fait la même chose avec sa femme, Rebecca. D'accord. Maintenant, remettez en question ceux qui appartiennent à l'histoire. Est-ce vrai? Eh bien, ils sont historiquement vrais et ils se sont réellement produits. Cependant, est-ce ce que nous devrions faire? Mentez à propos de notre sœur parce qu'elle est notre sœur. C'est ta femme et tu l'appelles ta sœur et des choses comme ça. D'accord. Non, c'est de l'histoire. C'est ce qui est arrivé. Il n'y a pas de raison pour que ce soit la façon dont nous devrions ou devrions faire les choses. Un autre est un David. David est un homme selon le cœur de Dieu. Nous voulons être comme David, n'est-ce pas? Ouais. Parlez-moi de Bethsabée et parlez-moi d'Uri. Uri revient. David essaie de l'enivrer pour qu'il cache le fait qu'il a eu des relations avec Bethsabée. Il renvoie Uri vers Joab de l'autre côté du Jourdain et lui dit, « Et, mets-les devant là et reculez tout. » Et laissez Joab s'occuper de cette question. Joab les met au premier plan. Il recule. Uri est tué. Joab dit, « David, tout est réglé. » Jusqu'à ce que Nathan le prophète vienne et dise, « David, c'est toi l'homme. Vous l'avez fait. » Et Nathan le prophète est alors envoyé par Dieu pour affronter David. Ce que David a fait était mal, vraiment mal. Et il l'a payé de plusieurs manières. Et donc, ce que je dis, c'est que ce que David a fait alors qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, ce qu'il a fait était vraiment mal. Donc pas dire loi. En d'autres termes, nous ne suivons pas l'histoire et ne disons pas, oui, l'histoire est vraie. Ce qu'il a fait est arrivé. Et c'est vrai. Cependant, cela n'est pas devenu pour nous un devoir ou une loi. Donc, en histoire, il faut comprendre la différence entre l'histoire et le droit. Ce sont deux genres et choses différents. Et le droit? Le premier-né? Dieu dit dans Exode chapitre 22, verset 29, que le premier-né est le sien. Est-ce que cela s'applique à aujourd'hui? Que notre premier-né était Rebecca et qu'elle est ensuite née de Dieu. Vous voyez le premier-né mâle, Zacharie, mon autre fils. Et alors, vous dites, est-ce qu'on fait encore ça aujourd'hui? Et la réponse est non, c'était une loi à l'époque, mais cela n'a pas nécessairement d'impact. C'était une loi donnée à Israël à cette époque. Et même si c'est vrai, toutes les lois ne sont pas censées être respectées de cette façon. Et en fait, les gens mangent du homard aujourd'hui. Vous devez poser des questions à ce sujet du point de vue de la loi. Et la prophétie? Vous dites, eh bien, les prophètes ont prononcé la parole de Dieu. Donc ce qu'ils ont dit est vrai. Et c'est exact. Ce qu'ils ont dit est vrai. Mais Ésaïe était apparemment d'après Ésaïe chapitre 20, verset 3, il était dit à Ésaïe de se promener nu pendant 3 ans. Sommes-nous censés faire ça? Et Dieu m'a appelé et je le suis, je ne pense pas. D'accord. Dieu a appelé ce prophète pour un moment particulier. Il avait un message particulier à transmettre à Achaz ou à l'un des rois d'Israël. Et donc, c'était un message particulier pour cette situation particulière. Est-ce, ainsi parle le Seigneur? Oui. À ce roi. Oui. Le rappelant à l'Alliance. Oui. Mais son message passait aussi par le signe de se déplacer mal vêtu. Cela ne veut pas dire que nous sommes censés nous promener mal vêtus. D'accord. Ainsi, ce que le prophète a fait n'était pas nécessairement normatif pour toujours. Donc, il faut dire que c'est une prophétie. Ce n'est pas censé être une norme, une loi ou quelque chose du genre. Vous devez donc comprendre comment la vérité évolue à mesure qu'elle se déplace à travers différents genres littéraires. La littérature de sagesse n'est pas une loi. La littérature de sagesse n'est pas une loi. Ecclésiaste 1h17 dit ceci. Alors, je détestais la vie parce que ce qui se fait sous le soleil m'est pénible. Car tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ce qui arrive à l'imbécile m'arrivera aussi. Pourquoi alors ai-je été si sage? Et j'ai dit dans mon cœur que c'était aussi de la vanité. Vanité, vanité, tout est vanité. Sommes-nous censés universaliser cela? Est-ce toujours vrai? Et maintenant, ce type de l'Ecclésiaste, Coëlet, a du mal avec cela, mais il s'agit d'une littérature de sagesse. C'est censé être réfléchi, stimulant. Il ne s'agit pas nécessairement d'une déclaration d'une vérité universelle absolue. Donc, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une littérature de sagesse. Et puis il faut y réfléchir. Littérature apocalyptique. Vous dites, la littérature apocalyptique est-elle vraie? Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre que c'est de la littérature apocalyptique. Donc, si vous êtes dans le livre de l'Apocalypse et que vous avez toutes ces bêtes qui courent partout et des choses comme ça, vous allez comprendre les choses. C'est de la littérature apocalyptique. Cela ne doit pas être considéré comme un fait historique, ni comme une loi. Et ce n'est pas censé être considéré comme une littérature de sagesse ou quelque chose comme ça. C'est de la littérature apocalyptique. Et donc, Daniel chapitre 7, par exemple Daniel 7, rêve de ces 4 bêtes sortant de l'eau et de la terre et des choses comme ça. Et ces 4 bêtes sortent, et vous demandez, est-ce que cela s'est réellement produit? C'est de l'histoire? Et vous dites, eh bien, c'est apocalyptique. Et ainsi, la bête, et ils font cette grande statue de Nabucodonosor et tout, et elle se dresse, elle représente quelque chose. Et donc vous devez comprendre qu'il s'agit de littérature apocalyptique. Donc, ça dit ceci, mais cela représente cela ici. Et donc, dans un certain sens, c'est une sorte de métaphorique avec une sorte d'expression de fin du monde apocalyptique futuriste, et souvent hyperbolique, et aussi très difficile à comprendre. Ce n'est pas évident. Certaines de ces images, et vous devez y réfléchir et vous devez, vous savez, y travailler. C'est apocalyptique. Ce n'est pas censé appartenir à l'histoire. Ce n'est pas censé être une loi. Ce n'est pas censé être de la poésie. Il faut donc comprendre qu'un proverbe n'est pas une promesse. Ainsi, quand il est dit, éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. C'est un proverbe, pas une promesse. Et il faut comprendre cette différence de genre littéraire. Par exemple, un fils sage fait un père heureux, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Proverbe 10h01. Est-ce toujours vrai? Un fils sage fait un père heureux. Est-il possible que le fils soit sage, mais que le père soit parti s'occuper de sa maison et que le fils sage ne fasse pas en sorte que le père soit content de lui parce que le père est parti? Très probablement. Un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Ouais, ça arrive normalement. Une mère ressent la douleur d'avoir un enfant errant et des choses comme ça, un enfant prodigue, mais est-ce toujours vrai? Non. Parfois, la mère est dans le coup, d'accord, et elle est aussi stupide, et donc elle a ce genre de problème. Proverbe 10, 4 que nous avons mentionné précédemment, une main relâchée provoque la pauvreté. Est-ce toujours vrai? Mon fils travaillait avec des gens ici à Boston, et un gars sort tout le temps jouer au golf avec les patrons et il ne fait pas son travail. Quand vient le temps d'obtenir une promotion, mon fils, j'ai essayé de le former, tu travailles dur et c'est comme ça qu'on avance. Vous travaillez dur et vous faites bien votre travail. Vous arrivez à l'heure et faites votre travail au mieux de vos capacités. Est-ce que cela mène toujours à une promotion? Non. Ce gars qui sort arrive tard, sort et joue au golf toute la journée, devinez quand il s'agit de promotion, boum, il obtient une promotion. Vous dites, eh bien, ce n'est pas vrai. Eh bien, et, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, la main lâche provoque la pauvreté, ce n'est pas nécessairement vrai, mais la main des gens diligents rend riche. Comme je vous l'ai dit, mon père était l'une des personnes les plus diligentes que j'ai jamais vues de ma vie. Il a travaillé dur toute sa vie, et pourtant il n'a jamais vraiment réussi à s'enrichir. J'ai travaillé, ce n'est même pas comparable puisque j'ai été professeur toute ma vie. En fait, mon père a dû travailler dur, alors que j'ai fait des choses que j'ai appréciées toute ma vie en tant que professeur et des choses comme ça. Maintenant, je travaille dur, mais c'est un travail académique. C'est très différent du travail manuel qu'il effectuait. Ce que le méchant redoute lui arrive, les désirs justes sont exaucés. Proverbe 10h24. Ce que le méchant redoute lui arrive, les désirs du juste sont exaucés. Est-ce toujours vrai? Le psaume 72, 73 dit, non, les justes s'effondrent et les méchants prospèrent. Dieu, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Il est aux prises avec cette réalité de la prospérité des méchants. Mais ce proverbe dit que ce que le méchant redoute lui arrive. Ils ont dit, non, les méchants ont en réalité obtenu tous leurs désirs que les justes devraient avoir. Cela montre simplement que les proverbes ne sont pas une vérité absolument universalisée. Vous ne pouvez tout simplement pas saisir un proverbe et le considérer comme une vérité universelle dans la vie. C'est un proverbe. Ce n'est pas censé être une vérité universelle comme celle-là. Maintenant, les proverbes suivants décrivent, certains proverbes ne vous disent tout simplement pas ce qui devrait être, que vous devriez travailler dur pour devenir riche, et des choses comme ça. Mais certains d'entre eux sont simplement des sortes de proverbes. Le proverbe n'a pas de composante de type « devrait » ou « devrait ». Ainsi, par exemple, dans Proverbe 19, 4, la richesse amène de nombreux nouveaux amis. Vous dites, eh bien, c'est quel genre d'amis? Vous savez, la richesse amène de nouveaux amis, mais les proverbes la présentent sous un jour positif. La richesse amène de nouveaux amis, mais le pauvre est abandonné par son ami. Vous dites, eh bien, ce n'est pas vrai. Mais les proverbes disent, eh mec, ce n'est pas ce qui est bien ou mal. C'est comme ça. Ainsi, les proverbes sont parfois de la littérature de sagesse décrivant simplement le fonctionnement de la vie. Et parfois, la richesse amène de nombreux amis. Un pauvre homme est abandonné par son ami. Le verset suivant, Proverbe 19, 6, juste en bas, dit que beaucoup recherchent la faveur d'un homme généreux. Et tout le monde est l'ami d'un homme qui offre des cadeaux. Tout homme est l'ami de celui qui offre des cadeaux. Donc, les gens qui fournissent des cadeaux et d'autres choses, boum, ils se font beaucoup d'amis. Vous dites, eh bien, ce n'est pas vraiment vrai. Est-ce pour cela que votre base est une amitié? Et ce proverbe dit, non, ce n'est pas que cela devrait ou devrait être ainsi. C'est comme ça, mec. Les gens qui offrent des cadeaux attirent de nombreux amis. Beaucoup recherchent la faveur d'un homme généreux. Et donc, voyez-vous, vous connaissez des gens comme ça. Ma femme a été comptable pendant de très nombreuses années. Et ces gens très, très riches ne savaient jamais à qui ils pouvaient faire confiance parce que tous ces gens se blottissaient en quelque sorte contre eux. Et au fond, vous ne saviez pas si la personne vous aimait vraiment et allait être un véritable ami ou si elle cherchait simplement l'argent que vous aviez. Ils essaieraient de serpenter ou de voler ou d'obtenir certains des avantages dont vous disposez se répercuteraient sur eux. Et beaucoup d'entre eux l'étaient, et beaucoup de gens riches étaient toujours sceptiques quant à leurs amitiés parce qu'ils ne savaient jamais ce qu'était un véritable ami. Peu importe que vous ayez de l'argent ou non, qu'il soit votre véritable ami, qu'il vous soutienne ou quoi que ce soit d'autre. Beaucoup recherchent la faveur d'un homme généreux. C'est comme ça. Et cela arrive encore et encore. 19, 7, Proverbe 19, 4, 6 et 7, tous ces genres de proverbes simples. Tous les frères d'un pauvre le détestent. Tous les frères d'un pauvre homme le détestent parce que le gars vient toujours vers son frère en lui disant, « Eh, tu peux m'aider ? J'ai un problème. J'ai un problème là. Je ne peux pas m'en empêcher. Et donc, pouvez-vous m'aider ? Tu es mon frère. » Et au bout d'un moment, les frères du pauvre le détestent. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est parfois vrai. Et à combien plus forte raison ses amis s'éloignent-ils de lui? Donc, voici une personne dans le besoin, une personne qui est pauvre, et en gros, son frère finit par se retrouver, il leur demande de l'aide et il y reçoit de la haine. Et ses amis le quittent parce qu'il est dans le besoin et tout. Ainsi, les proverbes, certains proverbes ne disent pas comment cela devrait être, mais c'est exactement ainsi. Et certains d'entre nous disent que c'est dommage. Ce n'est pas ainsi que cela devrait être. Mais les proverbes reviennent et disent, non, non, nous allons vous parler de la vraie vie. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est comme ça. Donc, il y en a aussi, maintenant, c'est amusant. Parfois, avec les proverbes, vous obtenez ce caractère ludique et on les appelle des proverbes contradictoires. Ou encore, il y a un gars nommé Wolfgang Mede, qui est probablement le plus grand expert mondial des proverbes. Il étudie, le gars lit, je ne sais pas, 5-10 langues. Et donc, il aime les proverbes russes et tous ces différents proverbes allemands, etc., les proverbes anglais, tout ça. Et il crée ses dictionnaires de proverbes américains. Et il a un dictionnaire d'environ 1200 pages, rassemblant tous les proverbes d'Amérique ou allant dans les proverbes allemands et rassemblant à nouveau un livre, un gros livre, des proverbes russes, etc., etc. Et puis, après avoir examiné les proverbes du monde entier, ce type a une très bonne idée de ce qu'est un proverbe. Je crains que la plupart de nos étudiants en études bibliques ne sachent même pas qui est Wolfgang Mede. Si je prononce son nom, Mede, personne ne sait qui il est. Et le problème est qu'il est le plus grand expert mondial en matière d'examen des proverbes du monde entier. En Afrique, il y a une tonne de proverbes utilisés en Afrique, actuellement utilisés dans ces cultures. Ce type en est conscient. D'accord. Et il a écrit de très nombreux grands livres sur les proverbes et les différentes cultures et leur fonctionnement. C'est pourquoi il les appelle « proverbes tordus ». Et donc, je veux juste jouer avec certains de ces proverbes tordus qui se produisent. En fait, je vais utiliser des exemples en anglais, des exemples que nous connaissons tous, mais juste pour vous montrer qu'il y a un certain côté ludique dans les proverbes. Le proverbe n'existe pas toujours, c'est la vérité divine qui vient à nous, et boum, la voici dans un proverbe. C'est une vérité divine, donc universelle et absolue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les proverbes. Et donc oui, Dieu utilise les proverbes et la poésie. Il y a une belle poésie dans les proverbes. Si vous regardez Proverbe 31, désolé de vous éloigner de cela, mais Proverbe 31, c'est un bel acrostiche de la femme vertueuse, de la VW, de la femme vertueuse. Beau, beau poème à la fin là. Et c'est un acrostiche. Donc, c'est A, B, C, des qui descend comme ça dans l'alphabet. Et c'est pourquoi il fait 22 versets parce que l'alphabet contient 22 versets là-bas. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaie de dire, c'est oui, il y a des éléments littéraires qui entrent en jeu dans la beauté des proverbes, mais prenons juste un exemple. Ma fille unique était jeune, Natania était jeune. Et donc, j'ai essayé, je suis une personne du matin et j'ai réalisé que maintenant il y avait des gens du matin et des gens du soir et que les deux ne se rencontreraient jamais. D'accord. Donc, je suis marié à une personne sérieuse de la nuit. Elle y va entre minuit et 2 heures du matin. Je suis une personne sérieuse du matin. Donc, 5 à 8 heures du matin est mon meilleur moment. D'accord. Donc, nous manquons un peu comme ça. Quand vous êtes jeune, vous ne savez pas ce genre de choses, mais après avoir vécu avec quelqu'un pendant 50 ans, une épouse merveilleuse que j'ai, vous réalisez en quelque sorte le manque et vous n'allez pas changer cela. C'est simplement inscrit dans leur ADN. Alors, ma fille, je voulais la faire lever et lui dire, tu sais, tu dois te lever pour aller à l'école et tu es toute chargée le matin et tu sautes du lit, et bam, tu frappais-le en courant. Et donc, j'ai dit, en gros, voici un proverbe. L'oiseau en avance attrape le ver. Tout le monde sait que c'est un proverbe. C'est vrai. Donc, cela s'accompagne d'un petit coup de pouce dans cette direction. L'oiseau en avance attrape le ver. Donc, le but est d'être le plus tôt possible, vous arrivez au travail à l'heure et en fait, j'avais l'habitude d'arriver au travail une demi-heure plus tôt. Donc, vous avez la configuration et tout le reste et vous savez, quand vous partez tard, et c'est comme ça que vous travaillez, du moins comme moi. Ainsi, celui qui se lève tôt attrape le ver. Maintenant, ma fille est la plus grande, tous mes enfants sont plus intelligents que moi. Quoi qu'il en soit, ma fille, sans perdre un instant, m'a renvoyé ça au visage. Oh ouais. Tu veux faire ce truc de proverbe, papa? D'accord. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Elle revient vers moi. Elle dit, oui, papa, mais, la deuxième souris obtient le fromage. La deuxième souris obtient le fromage. Le lève-tôt attrape le ver, mais la deuxième souris obtient le fromage. Qu'est-il arrivé à la première souris? Boum. Piège. D'accord. Ainsi, la deuxième souris reçoit le fromage. Donc, en d'autres termes, ce qu'elle dit c'est, ouais, ouais, tu te lèves tôt et tu attrapes le ver, mais parfois c'est la deuxième souris qui attrape le fromage. Il n'est pas nécessaire d'être toujours le premier. Et donc, si elle est juste un fouet intelligent et que nous nous sommes bien amusés avec ça. Elle m'a abattu et je n'ai pas aimé ça. Mais bon, en voici un autre. C'est un proverbe anglais classique. L'absence rend le cœur plus affectueux. Et voir cette belle image de l'absence rend le cœur plus affectueux lorsque quelqu'un s'en va et on pense à son absence. Quand j'étais au séminaire. Ma femme était de retour à Buffalo et y allait à l'école et l'absence rend le cœur plus affectueux. Et ainsi, vous écrivez des lettres, vous faites des choses, et justement, à cause de la séparation de l'espace, l'absence rend le cœur plus affectueux. Et vous dites, ouais, je le sais. Ou bien est-ce que, l'absence fait vagabonder le cœur? Maintenant, c'est une vision différente. L'absence rend le cœur plus affectueux. Waouh! L'absence fait vagabonder le cœur. Et combien de situations comme celle-là où deux personnes se séparent, vous savez, et sont éloignées, séparées? Tout d'un coup, elle apparaît, et elle est courtisée par quelqu'un et elle est partie, ou bien il est parti et l'absence fait vagabonder le cœur. Est-ce que vous y jouez avec plus d'affection et d'errance? Et donc, c'est ce que Médée et d'autres appelleront ces proverbes tordus où vous prenez un proverbe et le transformez en une situation intéressante. Ainsi, l'absence rend le cœur plus affectueux. Oui. Mais l'absence fait aussi vagabonder le cœur. Ou voici une autre façon de le dire, loin des yeux, loin du cœur. Et ainsi, quand vous êtes séparés comme ça, hors de vue, hors de l'esprit. Et donc, vous savez, les gens traversent des chemins différents. Donc, vous avez ces deux proverbes qui s'affrontent en quelque sorte, des proverbes qui s'affrontent, des proverbes tordus, et des choses comme ça. Donc, avec ces exemples modernes, vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Cependant, il y a un autre proverbe qui dit, on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. D'accord. Vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre, mais vous ne pouvez pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Et donc voilà, vous avez ces deux proverbes qui s'opposent en quelque sorte. et le fait est qu'il s'agit de littérature de sagesse. Vous vous attendez à ça. Vous voulez ces affrontements parce que ces affrontements vous font réfléchir plus profondément à la vie et vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Lorsque ceux-ci s'affrontent, cela vous fait réfléchir plus profondément à ce que signifie apprendre quand on est plus âgé. Et si cela est possible maintenant, les proverbes même le font. Et il y a une vidéo entière sur Proverbes 26, 4 et 5 que j'ai publiée. Et il est dit ceci, « Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur que vous ne soyez comme lui. » C'est pourquoi, « Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur que vous ne soyez comme lui. » D'accord. Alors vous rencontrez un imbécile. Ne réponds pas à un insensé selon sa folie, car alors tu seras comme lui. D'accord. Que dit le verset suivant? Proverbes 26, 4. Qu'est-ce que Proverbes 26, 5? Ils sont remis dos à dos. C'est une paire de proverbes. Les proverbes également dans ces dictons proverbiaux ou phrases des proverbes 10 à 29, ils sont souvent appariés. Et donc ici nous avons 26, 4 et 5 jumelés. J'examine cela beaucoup plus en détail dans une autre vidéo que j'ai réalisée. Ainsi, le premier verset dit « Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur que vous ne soyez comme lui. » Le verset suivant dit « Répondez à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. » Alors maintenant tu as, dis-tu, sainte vache, que dois-je faire maintenant? Je rencontre ce type qui est très stupide. Est-ce que je réponds à l'insensé selon sa folie, ou est-ce que je ne réponds pas à l'insensé selon sa folie? La Bible dit les deux choses. Vous dites, c'est comme une contradiction. Même les premiers gens qui élaboraient un canon ont fini par qualifier les proverbes d'antilégomènes. Anti et contre, legomena est un terme grec, prononcé contre, les livres contre lesquels on parlait. Et les proverbes étaient un de ces livres qui ont été critiqués, un peu comme Esther, parce qu'ils ne mentionnaient pas le nom de Dieu ou le cantique des cantiques parce que, eh bien, le cantique des cantiques est le cantique des cantiques. Et cela devrait-il être dans la Bible? Même ma mère m'a posé cette question au XXe siècle. Il y a donc ici une contradiction. Et les gens disaient, eh bien, il y a une contradiction dans la Bible, 26, 4 et 5, répondez à un insensé selon sa folie, ne répondez pas à un insensé selon sa folie, contredit et donc cela ne devrait pas être dans la Bible. Et donc, des questions se posaient sur son statut canonique. Ainsi, il a été placé dans l'une des cinq antilégomènes de l'Ancien Testament. Ce sont les proverbes. C'est bon. Ces choses sont censées être conflictuelles. Les affrontements vous font réfléchir plus profondément aux choses. Ainsi, les proverbes sont construits de cette façon. Maintenant, quand vous prenez un proverbe, pouvez-vous le retourner? Pouvez-vous le retourner? Si X, alors Y, d'accord, c'est vrai. Si X, si vous faites X, alors Y est vrai. Alors peux-tu le retourner? Si Y, alors X est vrai. C'est donc une sorte de déclaration si alors. Si vous, vous savez, éduquez un enfant de la manière dont vous le faites, quand il est vieux et ne s'en éloigne pas, pouvez-vous dire, quand il est vieux, s'il est vieux et ne s'en va pas, alors vous devez avoir fait du bon travail? Est-ce vrai? Pouvez-vous inverser le si alors? Si vous travaillez dur, vous deviendrez riche. Est-ce que cela prouve que si vous êtes riche, que vous avez dû travailler dur, alors vous avez travaillé dur? Pas nécessairement. C'est une erreur. C'est une erreur logique. Si X, alors Y, lorsque vous les changez et dites, si Y, alors X, même si la première affirmation peut être vraie, rien ne garantit que la deuxième affirmation soit vraie. C'est ce qu'on appelle une erreur logique. Et tu ne peux pas faire ça. Donc, vous devez être prudent. Si une bonne formation, alors un bon enfant. Si une bonne formation, Proverbe 22, 6, si une bonne formation, alors un bon enfant. On ne peut pas dire que si c'est un bon enfant, il doit avoir reçu une bonne formation. Vous ne le savez pas. D'accord. C'est une erreur logique des déclarations si alors qui ont été bien élaborées dans le domaine de la logique et de la philosophie. Alors permettez-moi de le prouver d'une autre manière. Existe-t-il des exemples de bons parents qui ont eu de mauvais enfants? Existe-t-il des exemples de bons parents qui ont eu de mauvais enfants? Dans la Bible, y a-t-il des exemples de bons parents qui ont eu de mauvais enfants? D'accord. Permettez-moi de vous donner un exemple classique. Je vais lire Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ce verset m'a aidé parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de choses de mal en tant que parent. Je repense à ces choses et je regrette ces choses. J'aurais aimé devoir recommencer. Mais c'est un peu comme ça maintenant. Les enfants sont enfermés. Je suis enfermé. Nous pouvons parler et des choses comme ça. Et j'ai eu des enfants merveilleux, bien meilleurs que ce que je méritais, en grande partie parce que j'avais une très bonne épouse et qu'elle était capable de régler beaucoup de problèmes que j'avais laissés tomber, malheureusement. Et, à bien des égards, je ne savais pas ce que je faisais. À bien des égards, c'est la raison pour laquelle j'ai étudié le livre des Proverbes parce que je voulais élever des enfants et je ne savais pas comment le faire. Et je savais que c'était une chose vraiment importante dans ma vie. Et puis j'ai foiré. Et de toute façon, ce verset m'a aidé. D'accord. Ésaïe 2, Dieu parle. Il dit, écoutez, ô cieux, prêtez l'oreille, ô terre, car le Seigneur a parlé. Maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est un, Kol Amar Mar Yahweh. C'est, ainsi parle le Seigneur. D'accord. Car le Seigneur a parlé. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai élevé des enfants et je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Laissez-moi le relire. C'est une déclaration très importante à la lumière de « éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » Voici Dieu qui parle. Les enfants que j'ai élevés et élevés. Dieu est-il le Père parfait? Oui, il l'est. J'ai élevé et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. D'accord. Dieu est le parent parfait. Et même ses enfants se sont égarés. Israël dans le désert, etc., etc. Il faut donc faire attention lorsqu'on prend un proverbe comme celui-ci et qu'on l'universalise, qu'on l'absolutise, en disant qu'on éduque un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Dieu dit que j'ai formé mes enfants. J'ai fait tout ce que je pouvais pour eux. Je les ai fait sortir d'Égypte. Je leur ai donné à manger, au milieu du désert. J'ai fait sortir pour eux de l'eau d'un rocher et j'ai pourvu à leurs besoins de manière miraculeuse, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et pourtant, mes enfants se sont rebellés contre moi. Et Dieu exprime la douleur qu'il ressent avec cela. Ainsi, Ésaïe 1.2 est très important. Ainsi, un proverbe n'est pas une promesse et vous pouvez être un bon parent et un parent parfait tout en ayant des enfants rebelles. Dieu s'est retrouvé dans cette situation. Or, est-il possible pour une personne d'être un mauvais parent et d'avoir un bon enfant? Vous dites non, je n'en sais rien. Existe-t-il des exemples de mauvais parents produisant un bon enfant? Parlez-moi de Saul et Jonathan. Dans l'Ancien Testament, Saul s'est avéré être le roi d'Israël. Le premier roi d'Israël était là-bas, vous savez, 1000 ans avant David. Et puis il commence à poursuivre David, essayant de le tuer parce que David était loin de Dieu après lui parce qu'il a gâché Samuel dans plusieurs situations, quelques situations. Et maintenant, parle-moi de Jonathan, le fils de Saul. Il y a quelques personnes dans l'Ancien Testament qui sont comme des pierres précieuses. Comme j'aime l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament le dit tel qu'il est. Et ainsi, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, se révèle avoir de très, très grands problèmes et un grand mal qu'il a commis. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, fait un gâchis et le royaume est divisé en 10 tribus et 2 tribus à cause de sa folie avec les différentes épouses et concubines du premier roi 11. Donc, ce que je dis, c'est que la Bible n'a pas peur de montrer des verrues sur presque Abraham et d'avoir ses problèmes et sur Moïse d'avoir ses problèmes et tout. Et donc, tous les héros de la Bible, presque tous ont des verrues ou quoi que ce soit, cependant, on a envie de le dire dans notre culture maintenant que les choses allaient mal. D'accord. Maintenant, quelques exemples qui sont en quelque sorte des contre-exemples sont Joseph. D'une part, tout le monde essaie de trouver de l'arrogance chez Joseph. Je ne suis pas sûr que c'est ce que signifient les derniers chapitres de la Genèse, mais Joseph était vraiment un joyau. Daniel est un autre type de dynamite, une excellente personne. Mais en voici un qui est souvent ignoré, le fils de Saul, Jonathan. Et je le regarde et je dis, mec, ce type est incroyable. C'était un ami de David. Et quand David est loin plutôt que Jonathan dit, « Eh mec, Saul est le roi, je suis le suivant, David, sors d'ici. Je suis le suivant. » Jonathan enlève sa robe et la donne à David, symbolisant David, « C'est toi l'homme. Dieu t'a choisi pour être roi d'Israël. » Et Jonathan, il ne semble pas y avoir de jalousie. Rien, juste un beau support, le soutien de Jonathan à David. Et ainsi, Jonathan part à la rencontre des Philistins. Lui et son porteur d'armure sortent et gravissent ce Wadi Sioni, une falaise de quelques centaines de pieds. Ils grimpent et il y a là-haut 20 Philistins prêts à leur arracher la tête. Jonathan se bat. C'est un grand guerrier et deux gars ont vaincu 20 Philistins et tout. Jonathan est donc un personnage de guerrier et il fait confiance à Dieu. Si Dieu veut nous livrer entre leurs mains, il le fera. Mais si cela se produit, nous monterons et les éliminerons. Il a fait confiance à Dieu et est monté les faire sortir. Jonathan était donc un grand homme de foi, un grand homme de valeur, un grand homme de courage et juste un bon ami. Je veux dire, David et Jonathan, on ne voit pas l'amitié comme ça. Deux gars ont une amitié vraiment très étroite. David pleure quand Jonathan est tué avec son père. Les Philistins le tuent si vous regardez un roi là-bas. Ce n'est pas un roi, c'est 2 Samuel. Vous regardez le début du 2 Samuel où David se lamente, il fait l'éloge de Saul et Jonathan. Et Jonathan est un gagnant. Saul était un vrai con pour un père. Jonathan s'avère être un joyau. Il est donc possible qu'un mauvais parent ait un bon enfant. Il existe d'autres exemples d'autres parents qui élèvent de bons enfants. En d'autres termes, les parents ne sont même pas impliqués. Je pense à Clarence Thomas, qui siège actuellement à la Cour suprême, et qui est un homme merveilleux, merveilleux. Il vient maintenant pour quelques critiques. C'est vraiment injustifié. Mais Clarence Thomas a été élevé par ses grands-parents. Alors, les grands-parents sont intervenus, ont sorti cet homme de la pauvreté et ainsi de suite, et maintenant il siège à la Cour suprême depuis des décennies. Clarence Thomas, quel merveilleux exemple de parents qui ne font pas leur travail. Je ne connais pas tous les détails. Il y a un livre là-dessus et des choses comme ça. Cela vaut probablement la peine d'être lu car c'est un véritable joyau. Mais ce sont ses grands-parents qui l'ont élevé. Dans la Bible, Joas a échappé à Athalie et Joas est élevé par un prêtre Jehoiada dans 2 Roi 11. Ainsi, Jehoiada, le prêtre, élève Joas, puis Joas entre pour devenir roi. C'était grâce à la formation de ce prêtre, qui lui a été très, très utile. D'autres fois, il y a une parentalité mixte. J'ai cette amie, elle étudiait à l'université à l'époque et elle venait et nous parlions. Son mari était alcoolique. Elle avait 2 enfants et il est rentré à la maison un jour ivre, a pris un 2 en 4 et l'a fait passer à travers le mur. Le lendemain, il se lève le matin et commence à pleurer sur les enfants, qui ont fait passer ce 2 en 4 à travers le mur et commence à pleurer sur les enfants alors que c'est lui qui l'a fait. Donc, elle doit faire face à cela et elle a dû lutter contre cela. Donc, elle avait vraiment du mal. Il est donc possible que le parent est un parent qui essaie de faire ce qui est bien et un autre parent qui fait vraiment des erreurs. Soit dit en passant, un autre exemple de Charles Payne est sur une chaîne de télévision économique. Encore une fois, il a été élevé par sa mère parce que son père a décollé. Donc, vous avez beaucoup de situations comme celle-là. Même moi, je pense à ma propre fille où, de toute façon, le père s'enfuit et ne s'implique pas du tout dans la vie de l'enfant, mais l'enfant s'avère être un joyau, Benjamin, et des choses comme ça. Le pire problème, c'est qu'il est allé dans l'Ohio State, mais je ne lui en veux pas trop. Quoi qu'il en soit, il est possible que la mère élève un enfant et que le père abandonne ou vice-versa, et l'enfant s'avère alors bon et certains d'entre eux se révèlent mauvais. Donc, la vie est complexe et tout, et il faut être prudent. La vie est complexe. Les proverbes sont plus singuliers dans leurs choses. Alors parfois, le timing ne fonctionne pas. Vous entraînez correctement l'enfant, en chronométrant le moment où il vieillit, cependant, l'enfant ne vieillit jamais. Il se fait renverser par une voiture où il sort boire avec des copains et ils ont un accident et le gamin est tué et il ne vieillit jamais. Donc, vous avez aussi le facteur timing ici. Vous pouvez bien entraîner un enfant et le timing peut tout simplement gâcher les choses. Un enfant prodigue meurt dans l'erreur de sa voix. Alors, le gamin devient un prodigue, il s'en va et il s'amuse, et puis tout d'un coup, il se met à prendre du fentanyl ou quelque chose du genre, une drogue, et puis boum. Ensuite, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de temps pour cela, l'enfant finit par mourir ou quelque chose comme ça. Un enfant sauvage, combien d'entre nous connaissent un enfant qui était sauvage quand il était plus jeune? Ils étaient sauvages quand ils étaient plus jeunes et indomptables, et quand ils vieillissent, ils changent la donne. Donc, j'ai des exemples, probablement l'apôtre Paul serait de cette façon. Quand il était plus jeune, il persécutait l'église et Stéphane mourait devant lui et des choses comme ça. Ensuite, vous avez Simon le Zélote, qui est aussi l'un des apôtres. Simon le Zélote, il était un fanatique, il a rencontré Jésus, et Jésus a changé sa vie. Je pense à un gars nommé Poli pour qui ma femme gardait les enfants. Son père est l'un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés dans ma vie et l'une des personnes vraiment bonnes, et pourtant son fils s'est retrouvé dans une drogue sérieuse et s'est égaré pendant un bon moment. Mais tout d'un coup, il est de retour et c'est juste un chrétien dynamique. J'aimerais dire jeune homme, mais il n'est plus vraiment si jeune. Mon propre frère a perdu 10 ans de sa vie à jouer avec de la marijuana et des trucs comme ça. Cela lui a pris une grande partie de sa vie. Mon jeune frère, plus intelligent que moi, aurait pu faire un doctorat s'il l'avait voulu. Il aurait aussi pu être un coureur de classe mondiale et des choses comme ça. Mais il s'amusait quand il était plus jeune. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la période de 10 ans là-bas a tout gâché, puis il a renversé la situation et il a repris ses esprits et a fini par devenir vice-président du système de métro dans l'une des grandes villes d'ici. Je pense aussi à un gars que je viens de rencontrer et que je reviens tout juste de la région de Saint-Louis. Il s'appelle Jacques et Jacques est un homme plus âgé. C'était avant que le vaccin contre la polio ne soit administré et il a donc contracté la polio dans une de ses jambes. Eh bien, il s'avère que Jacques traînait avec des méchants. Alors, à mesure qu'il atteignait l'adolescence, il traînait avec ces gars qui n'étaient pas vraiment bons. Presque tous ces types ont fini en prison d'une manière ou d'une autre. C'est un crime grave et ce genre de choses. Parce qu'il avait la polio dans la jambe, il a fini par rester à la maison et a fini par lire des livres et devenir intelligent. Donc, le fait que la polio ait été l'une des pires choses qui lui soit jamais arrivée s'est avéré être l'une des meilleures choses parce qu'il n'était alors pas capable de sortir et de faire tous les trucs de gangbang que ses copains faisaient à ce moment-là. Point et lui a épargné la vie. Alors il est aussi un homme sage maintenant. Voyez-vous ce que je dis? La vie est complexe. La vie peut aller dans un sens ou dans l'autre et il faut y faire attention. Cela dit, et essentiellement ce que j'essaie de dire jusqu'à présent, en le résumant simplement, un proverbe n'est pas une promesse. Certains proverbes ne sont pas censés être considérés comme des déclarations universelles absolues. Parfois, ils décrivent les choses telles quelles. On ne peut pas inverser le proverbe. Éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Vous ne pouvez pas retourner cela et dire, eh bien, s'il ne s'en est pas éloigné, alors je dois l'avoir bien formé. Ce n'est pas nécessairement vrai. C'est en fait une erreur logique. Il faut donc faire attention à ce genre de choses. De nombreux facteurs entrent dans la vie d'un enfant et peuvent l'amener sur la voie du bien ou sur la voie du mal. C'est un proverbe. Ainsi, lors de la formation des proverbes, vous voulez bien former votre enfant, mais de nombreux autres facteurs peuvent être impliqués. Il y a des amitiés, des propensions chez l'enfant, et il y a toutes sortes de choses. Même la dynamique au sein de la famille, j'ai eu 4 enfants, et la dynamique était presque comme si certains de ces enfants avaient été élevés dans des familles totalement différentes, mais pourtant, ce sont tous mes enfants et ont grandi dans ma maison. Mais chacun des 4 a vécu une expérience très différente au sein de notre propre famille. Donc, ce que je dis, c'est de faire attention à ne pas absolutiser un proverbe. Mais ensuite, nous voulons entrer et voir ce que signifie former un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc, ces 3 choses que nous allons examiner. Que signifie s'entraîner? Quel est ce mot? Anak veut dire? Qu'est-ce qu'un enfant? C'est en fait le terme nar. Est-ce qu'enfant veut vraiment dire enfant? Et est-ce qu'il s'agit d'élever des jeunes enfants ou d'autre chose? Et puis, dans la manière dont il devrait suivre, le mot « devrait » n'est vraiment pas en hébreu. Nous avons donc des choses à explorer dans ces 3 domaines, entraînez-vous, mon enfant, sur la voie qu'il devrait suivre. Et nous voulons aborder cela ensuite. Nous commencerons par « s'entraîner ». Eh bien, après avoir présenté Proverbe 22, 6, en termes de genre littéraire et de ce qui peut et ne peut pas être fait avec les proverbes, passons à l'étude des mots, 3 études de mots différentes. Nous allons maintenant prendre le premier, anak, qui est généralement traduit par « former, un enfant sur la voie qu'il doit suivre ». Donc, c'est « s'entraîner ». Et nous allons poser la question, est-ce « s'entraîner » ou est-ce « initier la première utilisation de » ou « consacrer » en ce qui concerne sa signification ? Et donc, très bien, la traduction se trouve dans la version King James, la version NAS, la version RSV, le SV, la TEV et la NLT. Il s'agit donc d'une traduction typique utilisée dans la plupart des traductions modernes. Le problème est que le mot anak n'est utilisé que 5 fois dans l'Ancien Testament. Par conséquent, nous en avons 5 ou 4 autres cas dont nous avons besoin pour établir la signification d'un mot par son utilisation dans son contexte. Et donc, nous en avons 4 autres exemples, puis celui-ci est le 5e. Alors comment le traduire alors qu'il n'est utilisé que 5 fois dans l'Ancien Testament? Ainsi, par exemple, l'ESV, King James et le NRSV l'interprètent ainsi, éduquer un enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et même quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Le NLT prend la même chose, mais il dit, dirigez vos enfants sur le bon chemin, et quand ils seront plus âgés, ils ne le quitteront pas, donc idée similaire, entraînez-vous, dirigez-vous. La NIV va, c'est un peu différent. Excusez-moi. La NIV dit de commencer, mettez les enfants sur le chemin qu'ils devraient suivre. Et même lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Et donc, commencer un enfant est un peu différent de s'entraîner. Et donc, en fait, la NIV est intéressante à cet égard. Maintenant, tout d'abord, nous allons examiner les différentes significations qui ont été proposées pour ce mot anak. Ou pour se former, ou on verra s'il y a d'autres possibilités ici. Ainsi, la première sorte de racine arabe, anaka, qui consiste à stimuler le désir. Les dictionnaires BDB, Kohler et Bogergartner prennent cette forme impérative qui est utilisée ici dans Proverbe 22, 6 comme dénominatif, dénominatif à partir de la racine du non-désir. Donc le désir. Et eux, c'est lié aussi au mot merlu, qui signifie le palais de la bouche, les gencives ou racines de la bouche, merlu, anak, anak. Et l'illustration est utilisée de femmes arabes qui prennent du miel, le frottant sur les gencives, le anak, le palais d'un enfant avec de l'huile et des dattes, d'accord, de l'huile d'olive et des dattes mélangées là-dedans, avant qu'il ne commence à sucer pour le rendre plus agréable au goût de l'enfant. Donc, éduquer un enfant, c'est essentiellement stimuler le désir en utilisant ce genre de choses au miel et à la confiture de dattes, en le plaçant sur le palais de la bouche du bébé pour qu'il apprenne à téter. Alors, créer le désir chez l'enfant. Et c'est un exemple de la façon dont ce mot est utilisé sur la base d'une racine arabe pour stimuler le désir. Et c'est bien de stimuler le désir chez vos enfants. Nous ne contestons pas cela. Mais ce mot veut-il dire cela? Et on dit que c'est confirmé alors par le fait que c'est Alpidarako, selon la bouche de sa voix. Epi est utilisé là-bas comme la bouche et donc ils disent qu'il y a ce genre d'oralité là-dedans. Et cela revient à mettre des choses sucrées et succulentes dans le palais de l'enfant pour qu'il puisse mieux téter. Et donc cela est confirmé par le fait que, selon sa voix, il utilise le mot pi selon la bouche de sa voix. Pourtant, nous constatons que dans Exode 34, 27, cet idiome alpi signifie en accord avec ces mots. Donc, il n'y a aucune utilisation du palais ou de la bouche dans cette autre utilisation. Proverbe ou Deutéronome 17, 10 et 11 utilisent également alpi et cela signifie selon ce qu'il déclare ou selon les instructions. Et donc, les deux autres usages de cet alpi ne signifient pas, à l'embouchure du chemin, se déclenchant dans la bouche. C'est juste, franchement, c'est un idiome et il faut faire attention. Vous ne pouvez pas prendre des expressions idiomatiques et les séparer. Et donc pas de fixation orale dans aucun des deux usages de ceci. Ce n'est donc pas un argument vraiment solide. Vous devez également faire attention à l'étymologie lorsque vous partez d'une racine arabe et que vous la transférez en hébreu et des choses comme ça. L'usage et le contexte déterminent le sens, pas l'étymologie. Et donc, vous devez faire très attention à l'utilisation et au contexte. Les problèmes d'étymologie sont évidents. Si je vais voir ma femme et que je dis chérie, tu es mignon dans le sens originel de ce mot. Eh bien, le sens original du mot mignon signifiait jambes arquées. Mais quand j'utilise le mot mignon pour ma femme aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux dire. D'accord. L'étymologie ne détermine donc pas le sens. Les mots changent avec le temps. Parfois, ils ne sont pas tels que ce à quoi ils ont été transformés n'est pas lié auparavant. Je trouve celui-ci intéressant aussi. Emoji. Ma femme est une reine des emojis. C'est du moins ce que disent mes enfants. Et ce n'est pas un mot anglais emoji. Donc, vous dites qu'une émotion plus une icône équivaut à une émoticône. Et, mais c'est vraiment le mot emoji. Et vous pouvez voir le mot émotion là-dedans, mais ce n'est pas le bon mot. D'accord. C'est en fait un emoji qui vient d'un japonais où le signifie image et l'emoji signifie personnage. Il s'agit donc essentiellement d'une image de personnage. Il a été développé en 1999 et piloté par l'iPhone d'Apple vers 2008. Nous avons donc ici un terme moderne emoji et vous pouvez voir où vous pouvez entrer dans une certaine émotion en anglais, mais cela n'a rien à voir avec cela car c'est fondamentalement à une racine japonaise. Donc, vous devez être prudent. L'étymologie ne détermine pas le sens. Il y avait toute une série de ce qu'ils appellent le dictionnaire théologique TDNT du Nouveau Testament qui a été fermé essentiellement parce qu'il se basait beaucoup sur l'étymologie et son utilisation dans son contexte. Le contexte détermine le sens. Le contexte détermine le sens de cela, cela. Donc, pour stimuler le désir, je veux reporter ça à plus tard. C'est probablement, ce n'est probablement pas vrai. D'accord. Maintenant, former, cela signifie nourrir, instruire et discipliner un enfant en termes de caractère moral et de sagesse. Et cela correspond bien sûr à merveille au proverbe et à l'enseignement, à l'éducation et à la discipline d'un enfant. Fréquemment dans les proverbes, quel âge a un fils, cependant, dans les proverbes? D'accord. Les proverbes s'adressent à un père, écoute mon fils, les instructions de ton père, prête attention à l'enseignement de ta mère. Et c'est ainsi que le père s'adresse fréquemment à son fils dans le livre des Proverbes et Proverbes 13, 24, celui qui lance le bâton déteste son fils, mais celui qui l'aime s'efforce de le discipliner. Et donc vous devez vous demander, quel âge a un fils dans les Proverbes? Et nous aborderons cette question lorsque nous aborderons le terme Nahar, qui signifie enfant, éduquer un enfant. Quel âge a un enfant? Quel âge a le Nahar dans le livre des Proverbes? Et nous y reviendrons plus tard, mais celui qui lance le bâton déteste son fils. Quel âge a le fils dans le livre des Proverbes? Proverbe 19, 18, discipline ton fils car il y a de l'espoir. Ainsi, le livre des Proverbes parle fréquemment de la discipline d'un fils et de son instruction. Maintenant, la question que nous nous posons est de savoir quel âge a ce fils dont il est question ici. Mais donc former un enfant est la notion de discipline, d'éducation, et ce genre de choses à former comme un besoin de formation des enfants est évident. Évident dans notre culture où nous avons, vous savez, nous avons un besoin de discipline. Nous avons des parents absents, nous avons des parents préoccupés, vous avez des parents hélicoptères, vous avez des mamans tigres, vous savez, des mamans ours maintenant, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans nos écoles. Et je remercie Dieu pour les mamans ours qui défendent leurs enfants contre ce qui se passe dans nos écoles ces derniers temps. Et en élevant des enfants, les enfants sont élevés sur les écrans de téléphone et sur TikTok et toutes sortes de choses qui gâchent les enfants, franchement, et dépriment les enfants deviennent déprimés et tout, sont élevés par les écrans plutôt que par leurs parents et l'amour et l'éducation d'un bon parent. La seule référence à l'entraînement en soi vient de l'araméen et c'est un entraînement pour un jour rapide d'expiation. Donc, le jour des expiations ou Yom Kippour, et ceci est utilisé en araméen, ce mot anak pour l'entraînement, et c'est un usage tardif et des choses comme ça. Encore une fois, lorsque je mets une mise en garde, elle n'est pas trop utilisée de cette façon. Les synonymes hébreux modernes comme l'amad sont généralement utilisés lorsque vous souhaitez enseigner ou apprendre quelque chose à quelqu'un. Avec des gloses anglaises comme éducation, apprenti, pupille, inuk signifie éducation en hébreu moderne. L'hébreu moderne l'adopte donc avec cette sorte de saveur éducative. L'entraînement correspond donc bien à cet usage moderne. La question est, oui, eh bien, c'est utilisé de cette façon en hébreu moderne. Cela signifiait-il vraiment cela en hébreu ancien? Et nous devons faire attention à ne pas confondre l'hébreu moderne. Je viens d'apprendre, lorsque j'étais en Israël, que normalement, la façon dont on disait bonjour et au revoir en hébreu s'appelait shalom. Vous dites shalom et ça voulait dire bonjour. Vous dites au revoir, vous dites shalom et tout. Maintenant, quand j'étais là-bas, j'ai appris que shalom était toujours bonjour. Lorsque vous voulez dire au revoir en hébreu moderne, vous dites « au revoir ». Et j'étais un peu dégoûté. En d'autres termes, l'anglais est entré en jeu. Je me souviens d'une fois où je parlais avec un commerçant, j'essayais de me procurer une cassette. Est-ce que quelqu'un sait encore ce qu'est une cassette? Ces petites choses qui avaient des bobines dessus et il y avait des bobines dessus avec cette bande magnétique qui circulait. Et puis vous les écoutez un peu comme des CD-ROM ou ce que vous feriez aujourd'hui sur Spotify ou Pandora, où vous diffusez la musique, mais vous l'aviez avant sur ces cassettes et vous insérez un lecteur de cassette. Alors, j'essaie d'obtenir une cassette. Et donc, j'essaie de décrire ce type en hébreu. Mon hébreu n'était pas très bon, mais j'ai essayé de lui décrire cette machine avec ce truc qui circule et qu'on entend dans nos oreilles et des trucs comme ça. Et je sors du magasin et finalement, j'ai eu ce dont j'avais besoin, mais je suis sorti du magasin et puis tout d'un coup quelqu'un dit, « Oh, tu voulais dire cassettim, cassettim ?» Le pluriel pour cassette. Et c'est ce que vous demandez. Donc, si je disais simplement le mot cassette, en d'autres termes, c'est parce qu'un mot anglais était passé en hébreu moderne. Donc, vous devez faire attention à l'hébreu moderne et à tout le reste. Et il y a des choses amusantes auxquelles vous pouvez penser en ce qui concerne la façon dont les langues évoluent au fil du temps et comment l'anglais affecte même l'hébreu, à mon grand désarroi, d'ailleurs. Pour s'entraîner. Pourquoi ne pas utiliser, si vous voulez parler uniquement de formation et d'éducation, pourquoi ne pas utiliser un mot très fréquent sur la formation ou l'instruction? Nous avons dit que la MAD est fréquemment utilisée pour former ou instruire. Mazar, un autre mot pour instruction. Yada et même la Torah sont utilisés pour l'instruction et des choses comme ça. Ainsi, Yada signifie connaître, enseigner de diverses manières, apprendre. Donc, c'est juste, c'est un peu étrange qu'ils utilisent ce mot qui n'est utilisé que 5 fois dans tout le Testament. Méfiez-vous aussi d'empiler les significations et de prendre, eh bien, vous dites que l'un était doué de créer un désir d'apprendre et vous mettez ces deux ensemble et vous dites, eh bien, nous allons montrer ce dévouement et si vous le souhaitez. Utilisez notre, et vous les assemblez tous. C'est une mauvaise façon de faire de la sémantique et vous ne voulez pas faire ça. Faites donc attention à ne pas simplement empiler des significations et des choses désespérées. Alors, regardons maintenant le Hanak, les 5 fois où il est utilisé dans l'Ancien Testament, et voyons si les 4 autres fois peuvent nous aider à déterminer comment le mot est utilisé pour former un enfant à la manière dont il devrait procéder. Ainsi, dans notre verset des Proverbes, il y a 4 autres occurrences de Hanak utilisées pour consacrer et initier l'utilisation de bâtiments. Ainsi, consacrer se traduit par consacrer ou initier l'utilisation d'un bâtiment. Et il y a eu une première utilisation des bâtiments. Ainsi, par exemple, dans Proverbes 20 verset 5, où je suis désolé, Deutéronome chapitre 20 verset 5, l'utilisation initiale d'une maison, ou le Hanak, l'utilisation initiale d'une maison est un raison pour qu'un homme ne parte pas à la guerre, de peur que quelqu'un d'autre n'utilise sa maison en premier et qu'il ne puisse pas l'utiliser. Donc, il est dit que vous obtenez un, essentiellement un sursis de conscription, un sursis ici parce que vous n'avez jamais vécu dans votre maison. Et donc vous n'avez jamais fait la première utilisation de la maison. C'est une nouvelle maison. Et par conséquent, vous bénéficiez d'un sursis. Laissez-moi vous lire le verset. Deutéronome chapitre 20 verset 5. Alors les officiers parleront au peuple et diront, Y a-t-il quelqu'un qui a construit une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée? Il y a un mot dédié. Le SV King James NASB, NLT, NAB et NRSV sont tous traduits par « dédié » ou le NIV traduit dans lequel il commence à vivre. Et je pense que c'est en fait probablement plus précis dans ce contexte particulier ici. Commencez à vivre dans la NIV, vivez Y. Qu'il retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre homme ne se consacre ou ne commence à habiter sa maison. Une dédicace si simple. Je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle la maison n'a pas été dédiée. Vous consacrez la maison, vous savez, vous aspergez l'eau ou écrasez une bouteille de champagne ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le propos. D'accord. Qu'il n'a pas été consacré lors d'une cérémonie qui dure 10 minutes. D'accord. Mais plutôt le premier usage de l'habiter, être le premier à l'habiter, à commencer à l'habiter. Il semble que ce soit plutôt le fait que ce type n'a jamais vécu dans sa maison. Il vient de construire la maison, laissez-le vivre dans sa maison. Vous savez, sinon, il ira en guerre. Il va penser à la maison qu'il a construite et à celle de quelqu'un d'autre dans sa maison. Donc, je pense que c'est l'utilisation initiale de la OU, comme le dit la NIV, pour commencer à y vivre. Cela a donc été utilisé 2 fois ici dans Deutéronome 20, 5. Maintenant, les 2 autres références proviennent en fait de la dédicace du temple, le temple salomonien, 1 roi 8, 63, où Salomon a cette magnifique prière de Salomon consacrant le temple à cet endroit. C'est beau. Et 2e chronique chapitre 7, verset 5, référence parallèle, 1er roi 8, 63, parallèle à 2 chroniques 7, 5, tous deux dans le contexte de la célébration entourant la dédicace de la première utilisation du temple salomonien. En d'autres termes, ils ont terminé la construction et maintenant ils vont le célébrer. Ils vont consacrer le temple au Seigneur. Salomon fait cette magnifique prière dans laquelle il utilise ce terme. Remarquez qu'il s'agit d'un contexte sectaire, de sagesse et de culte. Il y a une sorte de danse amusante que ces deux-là font ensemble. Mais permettez-moi de lire 1 roi 8, 63 qui est mis en parallèle dans 2 chroniques 7, 5. Dans 1 Roi 8, 63, Salomon offrit en offrande de paix au Seigneur 20 000 bœufs et 120 000 moutons. Ainsi, le roi et tout le peuple d'Israël ont consacré Hanouka. Hanouka ou dédicace ou première utilisation de la maison du Seigneur. Et là, cela semble être l'idée de consacrer plus que, mais c'est aussi en conjonction avec la première utilisation de la maison, semblable à la première utilisation de la maison dans le Deutéronome, l'homme qui a construit la maison. Donc, dans les deux cas ici, et aussi dans celui du Deutéronome, vos quatre autres cas concernent donc la prise d'un bâtiment et l'initiation de la première utilisation de celui-ci par un service de dédicace ou l'initiation de la première utilisation de celui-ci. Alors, remarquez ici avec le temple, cela l'éloigne du profane, c'est-à-dire un bâtiment construit avec des rochers, des pierres et des cèdres recouverts de cèdres, d'or et tout. Et maintenant, il est introduit dans l'espace sacré. En d'autres termes, cela est initié, cela se consacre. Et maintenant, quand il est dédié, tout d'un coup, il assume ce rôle, oui, et entre à ce moment-là dans sa première utilisation initiale. Ensuite, il est consacré comme temple de Dieu, quelque chose qui est saint maintenant. Ainsi, cela est passé du profane au domaine du sacré. Et ceci, ce mot train ou dédié ou utilisation initiale de est utilisé. Maintenant, ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'il y a 8 utilisations nominales de Hanouka. D'accord. Hanouka est maintenant le nom utilisé pour Hanouka. Et donc je veux les examiner pour voir si cela nuance le sens de toute façon parce que nous avons des choses désespérées. Former un enfant, mais ensuite nous avons toutes ces choses avec dévouement et initiant l'utilisation du temple ou de la maison d'un homme, de la maison d'une personne. Et maintenant, regardons quelques-unes des utilisations des noms. Y a-t-il 8 utilisations nominales de Hanouka? Ainsi, nombre 7, octobre 2011, 84 et 88, l'autel en mosaïque lors de la construction des tabernacles. Maintenant, il est dit que les chefs ont offert des offrandes pour la dédicace de l'autel, la Hanouka. Maintenant, il s'agit de la forme nominale pour la dédicace de l'autel. En d'autres termes, c'est la première utilisation. Et donc ils vont le consacrer. Cela consiste à le déplacer du, vous savez, profane vers le sacré, ce qui est saint. Et ils utilisent une cérémonie de dédicace pour cela ou une première utilisation de la première fois qu'ils vont l'utiliser de manière sacrée. Le jour où il a été oint, Machak ou Machiak, vous sauriez que l'oint, le Messie, le Machiak, un mot Mazak ici, a été oint et les chefs ont offert leur offrande devant l'autel. Et l'Éternel dit à Moïse, ils offriront leurs offrandes, un chef chaque jour pour la dédicace de l'autel. Et donc, à l'autel, ils ont eu une cérémonie et cela a duré apparemment pendant quoi, 8 jours là-bas ou peu importe. Et chaque jour, un des anciens venait se consacrer sur cet autel. Voilà donc des chiffres. Remarquez ici aussi l'utilisation initiale de l'autel avec une cérémonie de consécration. Donc, il y a ce genre de célébration où nous en sommes finalement, nous avons construit cet autel pour le Seigneur. Maintenant, nous nous consacrons au Seigneur. Il y a cette célébration et il y a ceci, vous savez, chaque jour, l'ancien monte et la consacre et loin, un machiak ou un genre de chose machiak. Ainsi, cela est rendu saint ou un. Certains des autres usages du nom, 2e Chronique chapitre 7, verset 9, dédicace du temple salomonien. Il est encore utilisé là-bas. Et permettez-moi de citer le verset, 2e Chronique, chapitre 7, verset 9. Et le 8e jour, ils tinrent une assemblée solennelle, car ils avaient observé la dédicace de l'autel pendant 7 jours. Il y a donc eu 7 jours de dédicace d'autel. Ils ont fini de le faire. Maintenant, ils vont le consacrer, le faire passer du profane au sacré, ce qui est saint ou le kadash ou ce qui est saint. Et ils utilisent cette cérémonie de dédicace pour faire cela, pour célébrer, pour le consacrer et pour initier la première utilisation de cet autel. Et donc, c'est aussi là-dedans. Maintenant, une autre fois, ce nom est utilisé, Hanouka est dans Néhémie 12, 27, lors de la dédicace du mur. Vous souvenez-vous de Néhémie construisant le mur autour de Jérusalem après l'exil? Et ainsi, Néhémie et ses hommes construisent ce mur. Et ainsi, lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, ils recherchèrent les Lévites et tous leurs lieux pour les amener à Jérusalem pour célébrer la dédicace. Encore une fois, notre parole Hanouka avec joie. D'accord. Alors, il y a une fête. Ils ont finalement fini le mur et Néhémie n'a pas besoin, vous savez, de se procurer une épée, de travailler la nuit et de faire toutes ces choses folles. Et donc, ils ont finalement consacré le mur. Ils disent que le mur est terminé. Nous l'avons construit. C'est ici. Nous allons maintenant célébrer la première utilisation de ce mur. Le mur est terminé. Et ainsi, il est dédié avec joie, action de grâce et chant. Le mur est maintenant prêt à être utilisé. Et donc, il le célèbre avec célébration. Puis dédicace devant le Seigneur. Voilà donc Néhémie 12, 27. En voici maintenant un dans les psaumes, qui est intéressant. Chapitre 30, verset 1. Dans le titre du psaume du chapitre 30, il est dit un psaume de David, un chant lors de la dédicace, Hanouka, la dédicace du temple. Ainsi, dans le psaume 30, verset 1, ou dans le titre du psaume, nous avons encore ceci, ce mot de Hanouka utilisé jusqu'à la dédicace du temple. Alors maintenant, tous nos propos, c'est intéressant, vont dans le même sens. Le mouvement du profane vers le sacré, ce changement de domaine en fait du profane au sacré, célébrant le premier usage de celui-ci et le consacrant maintenant avec une grande fête. Il est également intéressant que la fête de Hanouka, et maintenant nous sommes en 2023, nous travaillons sur la fête de Hanouka approche et elle dérive de la même racine. Vous pouvez voir Hanouka et c'est la fête de la dédicace, la fête de Hanouka. Célébration en décembre, généralement juste avant notre Noël, pour célébrer la dédicace du deuxième temple. C'est ainsi que le premier temple fut mentionné à plusieurs reprises. Maintenant, le deuxième temple qui a été construit après Esdras et Néhémie post-exilique à cette époque et des choses comme ça, mais ensuite Hérode, puis a refait le temple. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé, cet Antiochus Épiphane, le gars en Syrie après qu'Alexandre le Grand soit descendu dans les années 200 et soit descendu et a profané le temple juif, le deuxième temple. Le deuxième temple est souillé par Antiochus Épiphane et donc les Maccabées se lèvent et les Maccabées montent alors et rejettent le joug d'Antiochus Épiphane et ils montent et purifient le temple. Et puis il y a les bougies, les lumières durent plus longtemps. Et c'est pourquoi on l'appelle parfois la fête des lumières à cause de l'huile multipliée, le temple a été purifié. Ainsi, ce temple a été profané et maintenant il est purifié et il est à nouveau consacré lors de cette fête de Hanouka. Ainsi, les Maccabées montent et consacrent à nouveau le deuxième temple qui avait été profané par les Syriens, Antiochus Épiphane, celui qui descendait d'Alexandre le Grand. Et oui, c'était en 167 avant J.C. ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon, les Maccabées l'ayant profané par Antiochus Épiphane, la fête de la dédicace, d'ailleurs, la fête de la dédicace, Hanouka apparaît dans le livre de Jean. En fait, cela est mentionné dans le chapitre 10, verset 22 du Nouveau Testament, et Jésus hiverne à Jérusalem lors de la fête de Hanouka. C'est donc dans Jean chapitre 10, verset 22. L'araméen est une langue parallèle à l'hébreu, un peu similaire à l'espagnol et au portugais. Ne me citez pas là-dessus, mais ils sont, vous voyez ce que je dis? Les langues sont similaires. Nous avons fait l'Italie et nous avons appris quand nous sommes à Barcelone et c'est Gracia. Et puis nous allons en Italie et c'est Grazie, Grazie. Et donc, alors nous, mais vous pouvez voir que les mots sont parallèles entre l'italien et l'espagnol et tout ça. L'araméen est donc très similaire à l'hébreu. De plusieurs façons. Et il est utilisé pour décrire l'utilisation initiale ou la dédicace du deuxième temple dans Esdras chapitre 6, versets 16 et 17. Et ainsi, lors de la dédicace de la statue de 90 pieds de Nabucodonosor, Nabucodonosor érige cette statue de 90 pieds de lui-même, gentille. Du gars humble qu'il était, essentiellement en or. Et puis Daniel 3, 2 à 3, ils ont cité qu'il était enfin prêt à être utilisé. Et ils viennent finalement et ils vont, vous savez, inaugurer l'utilisation initiale et dédier cette statue, image ou idole de 90 pieds à Nabucodonosor. Et ils utilisent alors le mot cet Hanouka, Hanouka pour cela. Donc, en araméen, il est également utilisé et également utilisé. Voyez-vous comment on l'utilise? Dédicace au deuxième temple. Et puis la statue et des choses comme ça, la dédicace au mur sous Néhémie et tout ça. Donc pour consacrer ou initier un résumé, en résumé, la racine Hanouka est utilisée quatre fois comme verbe, sauf dans Proverbe 22.6, former un enfant. Tous les quatre sont dans le contexte de la célébration ou de l'utilisation initiale ou de la dédicace d'un bâtiment, et la forme nominale est utilisée pour les murs, les autels et pour la statue ou l'idole de Nabucodonosor et les objets pour la première utilisation de la dédicace de la statue. Et puis la dédicace de quelque chose comme un temple, un deuxième temple ou un mur de Jérusalem et des choses comme ça. Et donc ça nous dit quelque chose. 8 utilisations de noms font toute référence à l'initiation cultuelle d'objets matériels, d'autels, de temples et de murs. 4 utilisations en araméen biblique sont exactement parallèles à l'utilisation, le deuxième temple est la statue idole de Nabuchodonosor. Et donc, que faut-il penser de toutes ces données qui ne favorisent clairement pas la lecture pédagogique normale du chapitre 22 des Proverbes, verset 6, cité, faites quelques mises en garde ici avant de tirer des conclusions hâtives. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet. J'ai en quelque sorte 80 ans. Je vais argumenter sur quelque chose dont je suis sûr à environ 80%. Il y en a 20% qui me disent que c'est encore en train de s'entraîner. Chaque fois que vous voyez toutes les traductions, dites entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et quelqu'un comme Hildebrand vous dit autre chose. Soyez prudent avec ça. D'accord. Tout ce que je dis, c'est que je dois me mettre en garde ici. Je pense que j'ai raison, mais je peux très bien me tromper. Mais vous avez vu les données. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter les données. Vous pouvez donc vous faire votre propre opinion, mais vous devez être prudent. Chaque fois que vous faites également un travail de traduction, et que vous voyez toutes les traductions aller dans un sens et que quelqu'un d'autre vous dit autre chose, je vous dis de mettre un gros point d'interrogation là-dessus. Donc, vous savez, c'est juste qu'il faut faire preuve de prudence. L'intention pédagogique est en grande partie celle des proverbes, mais pas la dédicace cultuelle, comme la dédicace du temple. On ne le trouve pas dans les proverbes. D'accord. En fait, le temple est un temple. Un temple est-il même mentionné dans les proverbes? La plus grande réalisation de Salomon, son temple. Cela n'est même jamais mentionné dans le livre des proverbes. Je devrais vous dire quelque chose à propos du mélange de secte et de sagesse. Tu dois faire ça. Vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Alors, tu dois danser prudemment. Désormais, d'autres utilisations en dehors de Proverbe 22, 6 concernent également des objets inanimés. Vous avez des murs, vous avez des autels, vous avez des temples, des premiers et deuxièmes temples, et vous avez des statues ou des idoles et ce genre de choses. Ce sont donc tous des objets inanimés. Donc, il faut sauter les catégories, et lorsque vous appliquez cela à un enfant, cela ne convient pas vraiment. Tu sais ce que je dis? Ce sont donc des objets inanimés. Donc cela provoque une pause là, le 22h s'y entraîne un art, un enfant, nous allons voir si c'est vraiment un enfant ou pas, et souvent traduit enfant. Ainsi, les colocalisations comptent, et les mots qui les entourent comptent. Ainsi, lorsque vous êtes, vous consacrez l'usage initial de la maison d'une personne, afin qu'elle n'ait pas à aller à la guerre, ni dans un temple, ni dans un hôtel, ni dans un mur. Donc, c'est la dédicace d'un mur, la dédicace d'un temple, les mots qui accompagnent les choses affectent ce que le mot signifie. D'accord. Ainsi, par exemple, le garçon court, eh bien, le robinet coule. Est-ce que le robinet qui coule est la même chose que le garçon qui coule? Eh bien, le garçon qui court sur ses deux pieds, il se jette sur la route et tout. Le robinet coule, l'eau sort. Ma voiture roule. Ma voiture fonctionne-t-elle de la même manière que le robinet? Le robinet coule. Je n'aime pas ça. La voiture roule. J'aime ça. Le garçon court. C'est super. D'accord. Et donc, le comité fonctionne bien. Qu'est-ce que cela signifie pour un comité de bien fonctionner? D'accord. Ainsi, le mot course est utilisé dans des sens différents selon les mots qui l'entourent. Et donc, vous devez être très prudent alors quand vous avez un temple, un mur, un hôtel, une maison, ce genre d'objets inanimés utilisés avec le mot alors que dans les proverbes, il s'agit d'éduquer un enfant. Un tel, cela peut être différent. Et il se peut que le garçon court, mais ensuite vous dites qu'il a les courses. Là aussi, c'est totalement différent. Donc de toute façon, les mots changent et le contexte détermine le sens. Et c'est ce que nous devons examiner. Pour consacrer le résumé de l'initiation, Jastrow fournit plusieurs exemples araméens post-bibliques où le grand prêtre est inauguré et Isaac qui est initié, Anak, dans l'Alliance le huitième jour. Ainsi, ces références post-bibliques utilisent Anak dans des termes du même type, l'inauguration de la personne, la première utilisation de la dédicace d'une personne, et le huitième jour ou quoi que ce soit du genre. Il y a donc certains usages post-bibliques qui s'appliqueraient aux gens et qui soutiendraient alors ce que nous essayons de promouvoir ici. Celui qui m'intéresse vraiment est Genèse 14 et 24. Genèse 14 et 24 est un parallèle intéressant avec ce que nous avons ici parce que vous avez le mot Anak, mais vous avez aussi le mot nar, enfant. Donc, vous avez le mot train-up, puis le mot enfant qui utilise également le même contexte, un contexte très différent de celui que nous avons dans les proverbes. Mais écoutez simplement ceci. Vous vous souvenez de l'histoire. Quand Abraham apprit que son parent Lot avait été emmené captif. Donc Lot est à terre, il traîne à Sodome et Gomorre. Il y a un Kedorlaomé, le roi du nord ou autre, qui vient à l'est, descend et enlève Lot et l'emporte. Abraham le découvre et rallie ses gars, ses serviteurs et tout ça. Et ils montent et combattent et délivrent Lot de cela. Et puis sur le chemin du retour, vous vous souvenez qu'il rencontre un gars nommé Melchizedek ou Melchizedek et lui paie un dixième de tout ce qu'il a, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, quand Abraham apprit que son parent Lot avait été emmené captif, il partit. Ses hommes entraînés, et voici Anikav, ses hommes entraînés. C'est donc là qu'il est dit, hommes entraînés, nés dans sa maison, 318 d'entre eux, et partis à la poursuite jusqu'à Dan après la victoire. Je ne prendrai rien, dit-il, mais ce que les jeunes hommes, Narim, c'est notre monar. Remarquez que ces gars sont appelés des hommes entraînés et ils sont également appelés Narim. Mais tu vas dire, mon enfant. Ces gars ne sont pas des enfants. Ils sont en train de se battre. Ils ont juste gagné la bataille, ont mangé et une partie des hommes est partie avec moi. Ces gars ne sont pas des novices. Ils sont expérimentés. Ils sont formés. Ce sont des combattants qualifiés. Ils sont prêts à faire la guerre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un des gars utilise le mot « retenu » dans la traduction « les retenus ». Avec un mandat, vous auriez ses serviteurs, esclaves ou serviteurs, et ses serviteurs seraient ensuite formés. Ils seraient formés chez vous et ensuite ils seraient également entraînés à la guerre. Et ainsi ils le feraient, certains de vos serviteurs seraient alors formés à la défense et ce genre de choses. Et donc, on les appellerait des serviteurs, ce sont des serviteurs qui ont été formés à des fins spécifiques, dans ce cas pour la guerre et autres. Et donc, c'est intéressant, W.F. Albright a cité certains documents acadiens, ce sont des documents babyloniens, datant juste avant l'époque amarnienne, c'est-à-dire le 15e siècle avant J.C., avec une plainte des Amophis d'Égypte selon laquelle Rewaza de Tanakh, Tanakh étant Israël, en le contexte du rassemblement de troupes pour la guerre, n'avait pas envoyé de serviteurs, et un serviteur est un serviteur qui assure également le service militaire. Et cela s'appelle un anu, un anaokuuka. Donc, c'est fondamentalement la même racine, mais en babylonien ou en acadien, pour saluer un homme de ceci. D'accord. Donc, nous avons en fait quelque chose dans un langage apparenté qui fait le parallèle avec celui d'une personne formée et formée. Et apparemment, maintenant, une fois qu'ils sont formés, ils sont alors aptes au service. Donc cela pourrait, vous pouvez voir qu'il y a des similitudes non seulement au niveau de la formation, mais aussi au niveau du dévouement ou de l'utilisation initiale, en d'autres termes, qu'ils ont suivi la formation et maintenant il y a en quelque sorte eu une sorte de cérémonie ou quoi que ce soit qu'ils ont célébré. Maintenant, ce type est prêt à partir. Et donc, il a ce statut. Il a ce statut maintenant qu'il a été formé et maintenant il a officiellement reçu le sceau d'approbation indiquant qu'il fait partie de ces gars formés. D'accord. Donc, en conclusion, en bref, le mot anuk ne se concentre pas tant sur le processus de formation que sur la responsabilité et le statut qui en résulte pour celui qui est initié. Donc, ces gens sont initiés, ils sont formés, mais ensuite il y a, comme une cérémonie de dédicace, où on leur donne maintenant la responsabilité et le statut d'avoir suivi cette formation, éloignant les choses de l'avertissement parental pour fournir à un enfant de bonnes choses. Formation à une plus grande reconnaissance de son statut et de sa responsabilité, entrant dans une nouvelle phase de la vie. En d'autres termes, vous avez suivi la formation, vous n'étiez auparavant qu'un serviteur et maintenant vous entrez dans une nouvelle phase de la vie. L'utilisation initiale de, et vous pouvez voir comment ces choses sont alors parallèles, maintenant prêtes à l'emploi. Dès la première utilisation, il est désormais prêt à l'emploi, dédié, il est prêt à fonctionner. Il est prêt à être utilisé. Et c'est ainsi que cela semble être utilisé. Maintenant, c'est notre formation, alors maintenant cela semble être davantage cette idée de la première utilisation de donner des responsabilités et un statut, d'avoir terminé un projet ou un bâtiment ou autre, mais ensuite avec des personnes et des choses. Nous voulons ensuite examiner le mot nahar, qui signifie enfant. Et la question est, est-ce un enfant? Est-ce de l'éducation des jeunes enfants dont on parle ici? Ou le nahar est-il plus ancien? Est-ce un jeune? C'est donc une question fondamentale. Est-ce un enfant? Les pratiques d'éducation des jeunes enfants, et tout le monde le sait, les premières années de la vie sont absolument cruciales. Et donc, je ne conteste pas l'éducation des enfants et l'éducation des jeunes enfants est absolument très importante. Mais ce verset enseigne-t-il à élever des enfants en bas âge ou le nard est-il quelqu'un de plus âgé? Et nous voulons examiner cela ensuite. En continuant, nous avons vu que Hanok ou Hanok ont cette idée de consacrer l'utilisation initiale de ou de célébrer par une cérémonie, l'utilisation initiale de quelque chose par opposition à l'entraînement en soi. Nous voulons maintenant passer au terme nar, qui est généralement traduit par enfant. Nar a traduit l'enfant. Quand je dis le mot enfant, on pense généralement à un jeune enfant ou à un jeune. Un truc du genre petit enfant. Et la question est, est-ce vraiment un jeune enfant dont on parle ici ou est-ce qu'il s'agit d'une personne, d'un adolescent en retard? Et donc, nous voulons parcourir et voir qui est ce nar dans le livre des Proverbes. Et donc, commençons. La traduction anglaise de Proverbes 22, 6 est d'éduquer un enfant sur la voie qu'il doit suivre. Le King James le traduit ainsi. L'ESV le traduit. NASV, ASV, RSV, TEV et NIV, ainsi que NLT et NAB utilisent des enfants de sorte qu'au lieu de former un enfant sur la voie qu'il devrait suivre, ils peuvent dire qu'ils forment les enfants sur la voie qu'ils devraient suivre. Et puis, vous évitez le problème de genre qui est si répandu, nous sommes si particuliers dans notre culture et ne pouvons pas lire en dehors de nos constructions très étroites du débat sur le genre qui a lieu aujourd'hui. Et donc, mais en hébreu, c'est un singulier, c'est masculin, et en supposant que ça ne parle pas nécessairement d'un fils ou d'une fille par rapport à une fille, ça parle d'enfants les deux. Et donc, le terme est inclusif en matière de genre. Cependant, continuons et parcourons ce genre de discussion. Qui est alors le nar? Qui est cette citation, enfant qui est traduite? MacDonald, dans une étude basée sur l'analyse de centaines d'usages dans les usages ougaritiques et hébreux. Maintenant ougaritique et hébreu, l'hébreu était une sorte de dialecte cananéen, franchement, c'est un dialecte cananéen. Juste au nord d'Israël se trouve le Liban, et dans la région du Liban et de la Syrie, ici près de la côte, se trouve un endroit appelé Rash Shamra où ils ont trouvé des tablettes, des milliers de tablettes qui ont développé une langue appelée ougaritique. C'est une langue sœur de l'hébreu, ce sont des dialectes cananéens. Et franchement, j'ai dû prendre ougaritique. Et quand je l'ai enlevé à Jim et Zambrone, la vérité est que j'ai lu l'ougaritique comme s'il était en hébreu. Et en gros, j'ai simulé une grande partie du cours, je l'ai simplement lu comme si c'était de l'hébreu, et j'ai réussi la majeure partie du cours parce que les langues sont très similaires. Maintenant, ils sont différents, l'un est cunéiforme, et je m'en suis rendu compte. Ainsi, il a examiné l'utilisation ougaritique du mot nar ainsi que la manière dont il est utilisé en hébreu et a rassemblé ces deux éléments dans un article du journal of Near Eastern Studies. Et donc, quand je regarde ce qu'il a déterminé comme étant l'âge n'était pas au centre du terme. Ainsi, par exemple, nar est utilisé pour désigner un enfant à naître. Un enfant à naître s'appelle un nar. Et ainsi, Samson dans Juges chapitre 13, 5 à 12 est appelé un nar avant même sa naissance. Celui qui vient de naître est appelé nar ou enfant à la naissance d'Ishabod. Et ainsi, vous vous souvenez qu'Élie et eux ont emmené l'arche pour combattre les Philistins, puis ils reviennent et Hoth et Phinée ont été tués et ils reviennent vers la femme et la femme vient d'avoir un bébé et elle a ce bébé et elle l'appelle Ishabod. Et ainsi à la naissance de ce bébé, à la naissance du bébé dans 1 Samuel chapitre 4 verset 21, on l'appelle un nar, un enfant encore non sevré. Et ainsi, Samuel est ainsi dans 1 Samuel chapitre 1 verset 22, 1 Samuel 1.22, Samuel, le petit bébé Samuel n'est pas sevré et n'est pas ramené à Élie pour qu'Élie l'élève dans le contexte du tabernacle là-bas. Et donc, et pourtant on utilise ce terme nar. Un bébé de 3 mois en deuxième, où je suis désolé, dans Exode chapitre 2 verset 6, Moïse étant le bébé Moïse mis dans le panier et expédié sur le Nil, le bébé Moïse mis dans le panier est appelé un nar. Et donc, il a 3 mois à ce moment-là. Il est très intéressant que Joseph soit appelé nar dans Genèse chapitre 37 verset 2. Mais le problème est que Joseph a 17 ans. Il a donc 17 ans et il est appelé nar dans Genèse 37, 2. C'est fondamentalement un homme dans cette culture. Plus tard, Joseph a 30 ans et à 30 ans, bien au-delà de l'enfance, il est toujours appelé nar dans Genèse chapitre 41, 12 et 46, Genèse 41 verset 12 et 46. Donc le terme n'est vraiment pas l'âge, ce n'est pas le vrai point du terme. Ainsi, cela est traduit par enfant dans Proverbes 22, 6. Le nar est souvent impliqué dans des activités pour adultes. Ainsi, les nars sont décrits comme partant en guerre. Ainsi, par exemple dans 1 Samuel 17, 33 et le verset 42, je crois que c'est la situation de David et Goliath. David est considéré comme nard. Il part combattre Goliath. Eh bien, ce n'est évidemment pas un petit enfant. D'accord. Maintenant, ses frères s'en prennent à lui et lui disent, « Tu sais, tu es un jeune garçon, retourne surveiller les moutons. » Mais même s'il est jeune, il reste un jeune homme. D'accord. Il est tellement jeune, un jeune. Il n'est pas encore un guerrier officiel, mais c'est un jeune et non un enfant de 10 ou 11 ans. Juges chapitre 6 verset 12 et Juges 8, 20, les nards partent en guerre. Donc, ce ne sont pas seulement de petits enfants. Les fonctions sacerdotales du culte sont également impliquées. Et encore une fois, il fallait être très vieux pour exercer ces fonctions sacerdotales sectaires, et Juges 18, 3 à 6 et 20 utilisent le terme nard pour décrire ces fonctions sacerdotales, une mission d'espionnage spéciale. Et c'est une question intéressante. Josué envoie des espions. Moïse les a fait sortir d'Égypte. Ils traversèrent la mer Rouge ou la mer des roseaux. Ils traversent et traversent le désert et la manne, l'eau des rochers. Moïse frappe le rocher pour qu'ils ne puissent pas entrer dans la terre promise. Il les emmena ensuite autour d'Édom, de Moab, jusqu'à Ammon. Et il entra après les Amoréens, Ogé, roi de Basan, Sion, et fit sortir les Amoréens. Et puis Moïse doit maintenant mourir et il doit passer de Moïse à Josué. Josué était le nard de Moïse. Mais ce que nous essayons de souligner ici, c'est Josué 6, 22. Josué est maintenant installé. Il doit traverser le Jourdain. Et lorsqu'il traverse le Jourdain, le premier site qu'il va atteindre est Jéricho. Ainsi, il envoie deux espions et ces espions sont appelés Narim, PL, ou Nahar, SG. Notre terme traduit dans Proverbe 22, 6 enfants. Il ne va pas envoyer d'enfants là-bas. Ils se rendent chez Rahab, la prostituée, à Jéricho. Ce sont des hommes, ce sont des jeunes hommes qui sont envoyés, des jeunes hommes de confiance. Et donc, il envoie ces deux nards espionner Jéricho. Ce ne sont évidemment pas des petits enfants, vous savez, âgés de 10, 12 ou 8 ans. Donc, en mission d'espionnage spécial. La personne, souvent le nard, était le préposé personnel d'une personne de statut. Ainsi, par exemple, un patriarche a un nard, et un prophète a un nard avec lui. Un prêtre a un nard, un roi a un nard. Genèse chapitre 18, 7, 2 Rois 5, 1-27, 1 Samuel 22, 24 et 25, 2 Samuel 9, 9 et 2 Samuel 13, 17. Ceux-ci ont tous fait comme Abraham l'aurait fait, il a demandé à son nard de préparer de la nourriture lorsque les anges sont venus lui rendre visite avant de descendre pour détruire Sodome et Gomorre. Et il obtient son nard, le gars spécialisé dans la préparation de nourriture. Donc en gros, le gars prépare à manger pour ses anges qui lui rendent visite. Et Sarah rit à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le nard était donc un assistant personnel d'une personne ayant un statut élevé dans ses références. En supervisant le temple salomonien, Salomon a organisé toutes ces personnes pour construire le magnifique temple salomonien. Et le gars qui est à la tête de la main-d'œuvre, qui est à la tête de la main-d'œuvre de Salomon est appelé un nard dans 1 Rois 11, 28. Le terme ish est également utilisé pour désigner la même personne. Donc, il est utilisé, il est considéré comme un ish, un homme, et c'est appliqué, le nard est appliqué dans 2 Samuel 1h5, 10 et 13 et les parallèles là-bas. Il existe donc de nombreux autres termes qui peuvent être utilisés en hébreu. Si vous essayez de parler de jeunes enfants, un yeled est le plus couramment utilisé jusqu'à aujourd'hui. Vous dites yeled, c'est un jeune enfant. Ben serait le fils de, et donc les proverbes ont beaucoup de pères parlant à son bain, à son fils, comme un père parle à son fils, fils, écoute ma voix. Écoutez l'enseignement de votre mère. Et ainsi, on s'adresse sans cesse au fil. Dans les proverbes 1 à 9, vous avez tous ces types d'instructions qui disent où le père s'adresse à son fils. Quel âge a le fils? Le fils est-il jeune? Et il pense, eh bien, nous verrons, viendrons voir. Non, c'est un jeune adolescent ou un milieu d'adolescence ou une fin d'adolescence. Elem en est un autre. Olé, Oléal en est un autre. Yonek en est un autre. Etaf est destiné aux petits-enfants. D'accord. Il existe donc d'autres termes pour les jeunes enfants. Si vous essayez de dire, former un enfant et que vous voulez vous assurer que c'est bien l'éducation des jeunes enfants qui est abordée ici. Il existe de nombreux autres mots hébreux pour cela, mais remarquez qu'ils utilisent le terme nar. Nous voulons donc essayer de comprendre ce que cela signifie. Nar est également à l'aise parmi des termes comme evad, qui signifie serviteur. Ainsi, un serviteur et un nar, ces termes vont souvent en parallèle ou vont de pair. Et il est aussi chez lui parmi les akènes, qui serait un ancien. Et donc, une personne de statut et un aîné, et on oppose souvent alors un ancien et ce nar. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a aucun exemple de nar, une citation, un enfant traduit, dans Proverbe 22, 6, de naissance modeste. Il n'y a pas de nar dont on parle en termes de naissance modeste. Ainsi, vous avez Moïse, par exemple, Exode 2, 6, vous avez Samuel, par exemple, l'un des grands personnages, l'Ancien Testament, Jérémie 15, 1, par exemple, de 1 Samuel 1, 22 et les versets 24 et 25. Samson, qui est l'un des juges d'Israël. D'accord. Juge 13h05. Joseph qui, et nous parlons maintenant de Joseph en Égypte et de Genèse chapitre 32 ou 37, 2 et de Salomon et un roi 3, 7 lorsque Salomon prend le contrôle du royaume, en fait il a 41 ans à l'époque. Et donc, mais on l'appelle Nahar, ce qui signifie qu'il est jeune dans cette perspective. Maintenant changeons un peu de sujet et prenons Nara, qui est Nara, qui serait la forme féminine de Nar. D'accord. Et cela signifie donc une femme de haute naissance. Comme Nahar, j'ai essayé de le montrer, ce terme est chargé de statut de haute naissance. Ainsi, le féminin aussi, et ainsi par exemple Rebecca dans Genèse 24, 16, est appelée une Nara. D'accord. Rebecca, celle qui épouserait Isaac, l'un des patriarches d'Israël. Dina dans Genèse 34, 3, c'est l'une des filles de Jacob. C'est la fille de Jacob. Elle a maintenant 12 frères. D'accord. Ainsi, sur les 12 tribus d'Israël, Jacob eut 12 fils. Voilà donc les 12 tribus d'Israël, mais il avait une fille nommée Dina. Et elle a des ennuis là-bas à Sichem et les frères, oh mon Dieu, une mauvaise histoire. Quoi qu'il en soit, les frères s'occupent du problème. Quoi qu'il en soit, Dina, c'est donc une personne de statut. D'accord. Jacob est l'un des patriarches et Dina est sa fille. La fille de Pharaon, par exemple, dans Exode 2, 5, la fille de Pharaon est appelée Nara. Ainsi, la fille de Pharaon est évidemment une personne de statut. Il est intéressant de noter que la reine Esther est également appelée Nara. C'est une jeune femme et elle est visiblement attirante pour le roi. Ce n'est donc pas une jeune enfant. D'accord. Mais c'est une personne de statut et elle va devenir la reine Esther. Ainsi, même les termes féminins ont des connotations de statut. Souvent, le Nara était le préposé personnel d'une personne de haut statut, qu'elle soit domestique ou militaire. Ainsi, par exemple, Abraham a le Nar et le Nar est appelé à préparer un repas spécial pour ses visiteurs célestes, comme nous l'avons mentionné précédemment dans Genèse 18, 7 et 8, les visiteurs célestes viennent rendre visite à Abraham pour lui dire lui, il va avoir un fils et Sarah rit et tout. Mais on dit au Nara de préparer le repas pour cela. Donc, en gros, ils étaient les serviteurs d'une personne de statut, une personne comme un patriarche, et puis il a un Nara qui est un spécialiste dans la préparation de la nourriture ou d'autres choses. Nahar, le fidèle d'Abraham, l'accompagne au mont Moria. Ainsi, quand on dit à Abraham de prendre son fils Isaac et de l'offrir en sacrifice au mont Moria, qui Abraham emmène-t-il? Il prend un serviteur et ce type s'appelle Nahar. Est-ce un enfant? Non. C'est un serviteur personnel de confiance qui accompagne Abraham et Isaac pendant leur voyage de 3 jours vers le nord jusqu'au mont Moria. Donc Narala, Genèse chapitre 22 verset 3, Joseph est un Nara qui est chargé de la maison de Potiphar. D'accord. Est-ce un enfant? Eh bien non. La femme de Potiphar commence à le draguer et attrape son manteau, puis il est jeté en prison pour ça et tout ça. C'est évidemment un jeune homme. D'accord. C'est un jeune homme et la femme s'en prend à ce jeune homme pendant que son mari fait ses affaires en tant que Potiphar. Voilà donc Genèse 41, 12. Il est clair que Potiphar a son serviteur personnel. Son serviteur personnel était Joseph et Joseph n'était pas un jeune enfant. Joseph était une personne de statut et une sorte de jeune homme. Josué était le serviteur personnel de Moïse. Moïse est donc en quelque sorte l'homme de Dieu. C'est lui l'homme. Et puis Joshua ressemble en quelque sorte à son assistant personnel ou à son mentoré. On pourrait dire qu'il était sous Moïse, mais il accompagnait Moïse et ce genre de choses. Dans Exode 33, 11, il est mentionné que Josué était un ara. D'accord. Encore une fois, ce n'est pas un petit enfant. Ce type, c'est Joshua. Josué allait sortir et explorer le pays. Il va revenir avec un rapport et dire, mec, nous pouvons monter et prendre le terrain. Il va affronter les 10 autres qui disent non, non, il y a des géants là-haut. Josué et Caleb vont y aller. Josué est appelé un ara. Et encore une fois, pas un enfant, pas un jeune enfant. Saul a son ara lorsqu'il part à la poursuite des ânes de son père. Ainsi, dans 1 Samuel 9, 22, le père de Saul lui dit, « Et Saul, sors, tu sais, trouve les ânes. » Ils se sont égarés. Et ainsi, Saul prend un ara de confiance pour l'accompagner à la poursuite de ses ânes. Et encore une fois, ara de cette façon. Gédéon, et celle-ci est intéressante. Gédéon a tous ses hommes, il les rassemble, il va se battre contre Madian et Gédéon contre Madian. Madian a environ 100 000 gars et tout ça. Gédéon est mort de peur. Il rassemble tous ses gens, 22 000 ou quelque chose comme ça. Il rassemble tous ses gens. Dieu dit, Gédéon, tu as trop de gars. Vous dites, Gédéon dit, êtes-vous fou? Nous avons besoin de plus de gars. Nous avons besoin de moins. Dieu dit, si l'un de ces gars a peur, qu'il rentre chez lui. Et la moitié de son armée disparaît. Et puis il les emmène à la source et au ruisseau là-bas et leur dit, regardez comment ils boivent. Et puis ceux qui boivent dans un sens sont renvoyés chez eux. Eh bien, il ne leur restait plus que 300 hommes. D'accord. Il en a 300 contre des milliers. Et donc, ce qui se passe, c'est que Gédéon descend pour espionner les Madianites, cet immense camp Madianite, et donc Josué et cette Nara, son assistant de confiance, il ne choisit pas un autre guerrier et ce genre de choses. Il choisit un Ahar, un jeune homme pour l'accompagner. Ils descendent et écoutent ce qui se passe dans le camp Madianite avant d'attaquer. Et puis ils réalisent que Dieu l'a livré entre nos mains ainsi que l'épée du Seigneur et de Gédéon. Le lendemain, ils descendent là-bas, écrasent leur cocktail Molotov et le poursuivent avec leurs épées. Mais ils commencent à se battre entre eux et Dieu donne la victoire à Gédéon. Mais c'était Gédéon et sa Nara qui descendirent là-bas et écoutèrent et espionnèrent ces Madianites cette nuit-là. Voilà donc l'histoire de Gédéon et aussi des Nars là-bas. Jonathan et son art. Voilà une histoire intéressante. Il existe encore aujourd'hui un oued en Israël. Il y a cette vallée et Jonathan et son porteur d'armure marchaient dans cette vallée. Il y a une falaise d'environ 250 pieds où je ne sais pas exactement quelle est sa hauteur, mais elle est haute. Et les Philistins sont au sommet. Donc, il y a 20 de ces Philistins au sommet. Jonathan marche dans la vallée. Eh bien, on apprend en Israël qu'on ne marche pas dans les vallées. D'accord. J'avais des amis, Dave et moi, et nous marchions à l'est de Bethléem et nous sommes dans la vallée. Ce petit arabe était là-haut et il a commencé à nous jeter des pierres. Je parle, vous savez, de 100 à 200 pieds. Tout d'un coup, nous parcourons cette vallée, en camion, jusqu'au désert. Et tout d'un coup, bam, ces pierres commencent à frapper et ce gamin est là-haut en train de rire aux éclats. Nous sommes ici trois grands Américains. Nous ne pouvons pas l'atteindre parce qu'il est au sommet. Nous sommes impuissants. Et ce gamin commence à nous lancer des pierres. Et franchement, nous nous cachions derrière les rochers et nous roulions en trombe, sortant de là parce que le gamin nous avait tenus. Je veux dire, quand ces pierres te frappent à la tête, mec, tu es fichu. Et donc, en gros, Jonathan marche dans cette vallée avec son porteur d'armure. Et Jonathan dit, il lève les yeux, il y a 20 Philistins là-haut. Et il dit, tu sais, s'ils nous disent de monter, alors Dieu nous livre entre leurs mains. Ainsi, les Philistins disent, quelques jeunes juifs là-bas. Nous allons nous amuser avec ces gars. Laissez-les monter ici. Tout d'abord, lorsque vous escaladez cette falaise, 200, 250 pieds, ou quoi que ce soit, c'est une longue ascension. Quand tu montes là-haut, tu es fatigué. Et maintenant, vous devez combattre 20 Philistins qui vous attendent au sommet de cette chose. Ainsi, le porteur d'armure les accompagne. Ils escaladent la falaise et boum, Jonathan et son porteur d'armure éliminent 20 Philistins. D'accord. Donc, ce porteur d'armure s'appelait simplement un Ahar, mon enfant. Est-ce un enfant? 10, 12 ans. Non, non. Ce type monte avec Jonathan et combat et élimine les Philistins dans le 1 Samuel 14, 14. Donc Jonathan a son porteur d'armure, sa sorte d'assistant personnel qui est formé à des fins militaires. Ainsi, les conclusions en dehors des proverbes sont que ce n'est pas un jeune enfant inexpérimenté qui n'est pas visé. D'accord. Un enfant n'est pas la meilleure traduction de ce mot. Oui. D'accord. Donc, dès que vous dites enfant en anglais, vous placez l'enfant à 8, 10 ou 12 ans et vous formez un jeune enfant de 5 ou 6 ans, qui élève un jeune enfant. Et d'ailleurs, je ne parle pas contre l'éducation des jeunes enfants. Ce sont des années critiques et vous voulez être, vous savez, des parents phénoménaux et être attentif aux besoins de votre enfant lorsqu'il est de jeunes enfants. Bien sûr, c'est vrai. Mais la question est-ce ce que ce verset enseigne? D'accord. Donc, il utilise le mot nahar et nous avons vu que nahar, vous savez, cela ne devrait probablement pas être traduit par enfant parce que cela déclenche dans l'esprit américain, un jeune enfant entre 5 et 10 ans probablement. Or, le nahar, même si enfant n'est pas la meilleure traduction, se distingue nettement des guerriers comme Goliath. Goliath n'est pas considéré comme un nahar. Goliath est un guerrier majeur. Joab sous David est un grand guerrier. Abner et le fils de Saul sont également de grands guerriers. Ainsi, Joab, Abner, Goliath, ceux-là sont aguerris, ceux-là sont des guerriers aguerris. Ils ne s'appellent plus nahar. Le nahar est un jeune qui vient tout juste d'entrer dans ses rangs. Il est capable de se battre, mais ce n'est pas un guerrier aguerri. Ainsi, c'est généralement le statut, et non l'âge en soi, qui est généralement au centre des préoccupations. C'est généralement un jeune avec un statut qui s'est récemment lancé dans ce genre de truc. À Ougari, l'accent est mis sur le statut et non sur l'âge, comme l'a montré McDonald. D'accord. Abner, Goliath, ceux-là sont aguerris, ceux-là sont des guerriers aguerris. Ils ne s'appellent plus nahar. Maintenant, cela va changer notre façon de voir les choses. Il est intéressant de noter que le roi messianique est appelé nahar dans Isaïe chapitre 7, verset 16, « Voici, un garçon ou un enfant, le garçon ou l'enfant s'est refusé le mal et choisir le bien. » Donc là, c'est utilisé correctement pour un jeune enfant, mais c'est dire avant qu'il sache choisir le mal et choisir le bien. Child est un très jeune enfant, mais on lui a donné le statut de ce terme nahar parce qu'il va être le roi messianique. Ainsi, nahar est associé au statut. Maintenant, nous l'avons regardé en dehors des proverbes et nous avons vu que nahar a cette idée d'une sorte d'adolescent tardif qui est en train de s'épanouir, il est le serviteur personnel de quelqu'un d'important, un patriarche ou un roi ou quoi que ce soit du genre. Maintenant, je veux regarder dans les proverbes même et restreindre en quelque sorte la perspective sur nahar. Il n'est utilisé que cette fois dans le livre des proverbes et je veux les examiner pour voir ce qu'est le nahar dans les proverbes afin de le rendre plus spécifique en termes de cette littérature de sagesse. La sagesse a été écrite en association avec et écrite pour, promulguée par un roi de Sumer. Les rois faisaient preuve de sagesse en Mésopotamie. J'ai en fait deux volumes d'Ulster sur les proverbes de Sumer remontant bien avant, vous savez, les patriarches et ce genre de choses. Ces proverbes existent depuis longtemps. Les gens utilisaient les proverbes dans le monde antique. Et ainsi, nous avons maintenant deux volumes des proverbes de Sumer réalisés par l'Ulster. Mésopotamie, nous avons le volume de Lambert. Il s'agit, je ne sais pas, de 500 ou 600 pages et ainsi de suite sur la littérature de sagesse de l'ancienne Mésopotamie qui contient des recueils de proverbes. Ougari, il existe également des recueils de proverbes d'Ougari. L'Égypte est incroyable. L'Égypte a tous ses proverbes et autre chose dans des recueils des instructions d'Amenemop, des instructions de Ptahotep, etc., etc. Cela remonte à 2800 avant J.C., ce qui, vous savez, Abraham a laissé 2000 avant J.C. pour arrondir 2000. Donc, c'est 5, 6 ou 800 ans avant Abraham. Et ils ont ces proverbes. Ainsi, des proverbes ont été promulgués et utilisés par les rois de toutes les cultures, de haut en bas. Nous ne devrions donc pas être surpris. Nous le voyons en Israël. Et donc, en Israël, nous irons au premier chapitre 4 des Rois, verset 31. Et c'est ici une déclaration intéressante en termes de Salomon et de la sagesse de Salomon. Et il est dit ceci, d'accord, je vais commencer au verset 31. Premier Rois, chapitre 4, verset 31. Il est dit que la sagesse de Salomon surpassait toute la sagesse de tous les peuples de l'Est. Remarquez comment cela compare la sagesse de Salomon à celle des peuples de l'Est. Et comment devrais-je dire, sans dire que tous ces types sont une bande de païens? Non, il s'agit de comparer la sagesse de Salomon avec celle des hommes d'Orient, puis avec toute la sagesse de l'Égypte. Car il était plus sage que tous les autres hommes, plus sage qu'Étan, El-Ezret, Aiman, Kakal et Dadar, les fils de Maal. Sa renommée était dans toutes les nations environnantes. Il a également prononcé 3000 proverbes. Nous n'avons qu'environ 375 proverbes. Nous avons environ un dixième de ce que le gars a écrit et ses chansons s'élevaient à 100 005. Ils ont mis un chant de Salomon dans la Bible. Il a dit que ça suffisait. Mais en réalité, il y en a quelques-uns dans les psaumes même, écrits par Salomon. Il a parlé des arbres depuis le cèdre qui était au Liban jusqu'à l'hysope. Mais le fait est ici que Salomon parle des proverbes. Et donc, lorsque vous commencez avec le chapitre 1 des proverbes, cela commence de cette façon. Les proverbes de Salomon, Salomon est le roi. Ainsi, ces proverbes sont promulgués et publiés par le roi. Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et c'est ainsi qu'il identifie les proverbes dans le livre des proverbes. Proverbe 10.1, les proverbes de Salomon. D'accord. Et donc, les proverbes viennent du roi et ont été publiés dans ce genre de contexte de cour royale, de courtisa. Désormais, les scribes étaient également impliqués. Des scribes et ce que nous appellerons des courtisans. Ce sont des gars qui traînaient avec eux, je dois faire attention à la façon dont vous dites ça, des gars qui traînaient avec le roi et ce genre de choses. Et donc, les administrateurs, leurs administrateurs, nous les appellerions en quelque sorte, et je n'aime pas faire cela, mais nous les appellerions probablement des bureaucrates. Je ne veux pas aimer cela parce que les bureaucrates dirigent ce pays maintenant et ils le détruisent. Mais de toute façon, c'était des gens, des courtisans, il y avait du monde autour de la cour à l'époque. Et donc, ces gens, ces sages ou ces courtisans étaient autour du roi et lui donnaient des conseils, de la sagesse et des choses comme ça et s'occupaient des affaires. Et ainsi, dans Proverbes chapitre 25, verset 1, il est dit que les hommes d'Ézéchia ont copié les proverbes de Salomon. Donc apparemment, il y avait cette grande collection salomonienne, les hommes d'Ézéchia, puis les scribes, les gens du genre courtisans, les copiaient. Et c'est de là que viennent les chapitres 25 à 29 des proverbes, ces scribes d'Ézéchia. Et il nous dit explicitement que ces hommes ont copié les proverbes de Salomon et c'est les chapitres 25 à 29 des proverbes. Proverbes 24, 23, ce sont les paroles des sages. Et donc, vous avez Proverbes chapitre 22, décembre 2021. Et donc, ce sont aussi des paroles de sages. Et ainsi, ce sont les sages qui élaborent ces proverbes et tout, les rassemblent et les rassemblent. Et ils sont dans notre Bible maintenant. Donc, vous avez l'idée qu'il s'agit de la cour, du roi et de sa cour, ce genre de choses. Aucun prêtre ni aucun prophète n'est mentionné dans les proverbes. Très intéressant. Certains disent que la littérature de sagesse n'est plus une catégorie. Et ils essaient, vous savez, de faire exploser cette chose, mais il n'y a pas de prêtre et il n'y a pas de prophète mentionné dans le livre des proverbes. Les prêtres sont partout dans l'Ancien Testament, pas dans les proverbes, mais dans tout l'Ancien Testament. Aaron était prêtre, Éliézer était prêtre, etc., etc. Prêtre, 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 partout dans l'Ancien Testament, pas dans les proverbes. Prophète. Quand vous avez des prophètes, vous avez des prophètes dans les premiers temps et des prophètes tout au long de ces temps, en particulier avec les rois et les rois, nous parlons des rois et de la cour et tout ça, vous savez, Nathan réprimande David. Et vous avez Hulda la prophétesse, eux, à l'époque d'Isaïe, Isaïe lui-même étant un prophète, Jérémie, Ézéchiel, Dan, etc., des prophètes et autres partout dans la Bible, zéro dans le livre des proverbes. Les proverbes, la littérature de sagesse et la littérature de sagesse sont différents. Il y a toute une vidéo que j'ai faite montrant que les proverbes sont différents, eux, des autres genres littéraires et tout ça. Et donc, il faut en tenir compte. Maintenant, Nahar dans les proverbes. Dans Proverbes chapitre 23, 1 et 2, il est intéressant ici que Nahar reçoive des conseils et remarquez de quel type de conseils il s'agit dans Proverbes 23, 1 et 2. Il est dit que lorsque vous vous asseyez pour manger avec une règle, donc en d'autres termes, la personne à laquelle il s'adresse ici est le genre de personne à qui ils disent, eh, c'est comme ça que tu manges quand tu vas manger avec le roi. Vous ne vous contentez pas de manger. Vous devez avoir certaines manières. Ainsi donc, lorsque vous vous asseyez pour manger devant un souverain, observez attentivement ce qui est devant vous. Mettez un couteau sous votre gorge si votre appétit vous donne envie. En d'autres termes, vous allez aller chez le roi va avoir ce genre de buffet varié. Il y aura toute cette nourriture et toi, tu sais, et tu n'es pas habitué à ce genre de choses. Ne mangez pas et ne vous gavez pas, mettez un couteau sous votre gorge. Et voici donc des conseils donnés aux courtisans. D'accord. Aux gens qui entourent le roi. Et donc, c'est le nard. Lorsque vous vous asseyez pour manger avec une règle, observez attentivement ce qui est devant vous. Mettez un couteau sous votre gorge si votre appétit vous donne envie. Il y a maintenant cet usage dans les proverbes. Proverbe 1.4, 7.7, 20.11, 22.6 et 15, 23.13 et 29.15. Je veux les examiner maintenant et parcourir les proverbes un par un, c'est cet usage du terme nard. La question que nous soulevons est la suivante, s'agit-il d'un petit enfant âgé de 5 à 10 ou 12 ans? Ou s'agit-il d'un adolescent en fin de vie qui est sur le point de devenir adulte? Proverbe chapitre 1, verset 4 est adressé, le livre des proverbes s'adresse aux simples et aux jeunes. Et la jeunesse, le terme qui se traduit par jeunesse dans l'ESV, c'est le terme nard. D'accord. Sage et perspicace. Le problème n'est pas l'âge, mais le niveau de sagesse et son besoin de sagesse. Et permettez-moi de lire ce verset parce que c'est un verset critique au début des proverbes. Cela met en quelque sorte en place le livre et c'est l'introduction du livre dans le livre des proverbes. Et il est dit ceci, pourquoi les proverbes sont-ils écrits? Connaître la sagesse et l'instruction, comprendre des paroles de perspicacité, recevoir une instruction sur la sagesse, la droiture, la justice, l'équité, donner de la prudence aux simples et de la connaissance et de la discrétion aux jeunes ou à l'adolescent, selon ce qui est nécessaire. Dit ici dans le SV. Ce terme, jeunesse, est notre terme nard. Encore une fois, comme il s'agit des petits-enfants, cela contraste et compare avec les simples, ce qu'il dit, donner de la prudence aux simples et aussi simples et les jeunes sont en quelque sorte comparés là et laisser les sages entendre et accroître leur apprentissage. D'accord. Ainsi, le livre des proverbes lui-même est écrit à ce nard, à ce jeune pour lui donner conseil, connaissance et discrétion. Proverbe chapitre 7, verset 7, j'ai vu parmi les simples, remarquez à nouveau le parallèle entre les simples et nards. En d'autres termes, le nard semble être un jeune inexpérimenté. D'accord. Mais quel est le conseil ici? J'ai vu parmi les simples, j'ai aperçu parmi les jeunes. C'est notre mandat, nard. Est-ce un enfant? Et c'est parallèle à la même chose avec simple et enfant. Mais ici, au chapitre 7, le fils, le père met en garde son fils à propos de la femme interdite en disant, « Cette femme est à la merci, mec. » Elle dit, « Eh, petit-fils, viens, tu sais, jeune homme, viens ici. Celui de mon mari, il est parti depuis des mois. Il a son portefeuille plein d'argent. Il est parti et il ne reviendra qu'à la nouvelle lune. Donc, nous savons quand il reviendra. Et, pourquoi tu ne viens pas ici, mec? Nous pouvons nous amuser ce soir. » D'accord. Alors, la femme essaie de séduire le jeune homme et ce n'est visiblement pas un enfant, non? Ce n'est évidemment pas un enfant. Le père le met en garde contre la séduction. Et donc il n'a pas 7 ans, ce n'est certainement pas le cas. Proverbe 20, 11 dit au nard que son comportement sera remarqué et qu'il révélera son cœur. En d'autres termes, même un enfant est connu pour ses actes, un jeune. Les proverbes 22, 15 et 23, 15 parle de l'application du bâton de discipline pour chasser la folie des nards. Autrement dit, il est jeune et la verge de la discipline chasse la folie. Est-ce que cela parle de donner une fessée à vos enfants quand ils sont jeunes? Je ne veux pas entrer dans ça et toute cette fessée, plus personne ne donne de fessée à personne, mais de toute façon, je ne veux pas entrer dans ça. Mais, cela parle de l'être nard, le bâton de discipline qui chasse la folie de lui, d'ailleurs, ne dites pas non plus que cela parle nécessairement des jeunes enfants, car il dit aussi que le fou, le bâton chasse la folie de le fou et le fou est une personne âgée. Chapitre 26, 3. Il y a donc ici un parallèle entre le besoin du fou et celui de la verge, pour cette personne également. Mon gars, Proverbe chapitre 29, 15, un enfant laissé à lui-même comme une onde pour sa mère. Et nous reviendrons sur ce verset, mais un enfant, cela peut maintenant être n'importe quel enfant de tout âge, est une onde lorsqu'il est laissé à lui-même. Et de sorte que maintenant, dans Proverbe 22, 6, nard est souvent traduit, le plus souvent traduit par enfant ou en le prenant de manière neutre pour les enfants afin qu'ils puissent utiliser le mot « il » à la place de « lui ». C'est antithétiquement opposé au terme zakin, qui est le plus âgé, quand il sera vieux, il ne s'écartera pas de ses habitudes. L'âge semble donc être un facteur ici. Ainsi, dans Proverbe 22, 6, l'âge semble être un facteur. Cependant, le contraste est-il entre un enfant, vous savez, entre 5 et 10 ou 12 ans, ou est-ce entre un jeune, une fin d'adolescence et plus tard dans la vie? D'accord. Et cela à la fin de l'adolescence, quand il est jeune, par opposition à quand il est vieux et que le jeune est à la fin de l'adolescence, vous savez, 16, 17 ans ou quelque chose du genre. Et puis quand il est vieux, c'est une personne sage. Il ne s'agit donc pas de formation pour la petite enfance. Le Nar nous dit que non. Le livre des Proverbes s'adresse à ce type et il ne s'agit pas de formation pour la petite enfance. Il s'agit sûrement de la fin de l'adolescence, d'après l'usage qui en est fait dans les livres historiques et dans les Proverbes, ainsi que d'après les sujets abordés dans le livre. Des choses comme les séductions sexuelles ou les avertissements à ce sujet. Conseils économiques dans Proverbes 10, 5. L'instruction politique est donnée au chapitre 25, 6 à 7. Le vice militaire est donné au chapitre 24, 6. Les grâces sociales, comme nous le lisons sur la façon de manger dans Proverbes 23, 1 et 2. Ce chapitre contient beaucoup de choses sur la nourriture, la façon de manger et tout. Quoi qu'il en soit, ce genre de choses est destiné aux courtisans, aux jeunes qui font irruption dans le monde adulte de la cour. Ce ne sont pas de jeunes enfants, de 10 à 5 ans. Il ne s'agit donc pas de lecture pour la petite enfance. Maintenant, je dois présenter mes excuses à un homme nommé Michael Fox, qui est l'un des grands professeurs de sagesse. Quand on en vient aux commentaires sur le livre des Proverbes, il y en a essentiellement deux qui sont magnifiques et plusieurs autres en fait. L'un est les deux volumes de Michael Fox dans la Encore Bible, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Le docteur Bruce Waltke a également rédigé deux magnifiques volumes sur les Proverbes. C'est absolument magnifique. Et ces deux-là, je les recommande. Ce sont vos deux meilleurs commentaires. Il y a une femme en Angleterre, Catherine Dell, qui fait un très bon travail dans la littérature sur la sagesse, les proverbes et ce genre de choses aussi. Knutheim, que nous avons, biblicallearning.org en est un autre. Nous avons en fait beaucoup de choses dont nous parlons maintenant, des proverbes, il y a tout un site sur biblicallearning.org. Il y a une page entière sur les proverbes et nous avons Knutheim, qui est également l'une des personnalités les plus importantes au monde, sur le livre des proverbes et qui a fait un travail merveilleux sur les groupes et des choses comme ça dans les phrases proverbiales. Ce seraient donc des acteurs majeurs dans ce domaine. Michael Fox m'a bluffé lorsque j'ai initialement écrit cet article. J'utilise le terme nar et j'utilise le terme écuyer ou cadet. Et il m'a critiqué à juste titre, en disant qu'en utilisant le terme écuyer, quand vous pensez à écuyer, qu'en pensez-vous? Vous revenez au Moyen Âge, ou au cadet, vous pensez, vous savez, à West Point ou à Annapolis ou quelque chose comme ça. Et ce sont des termes anachroniques. En d'autres termes, vous prenez, vous savez, des termes du Moyen Âge ou des termes modernes et vous les projetez dans la culture. Il n'y avait pas d'écuyer à l'époque, il n'y avait pas de cadet à cette époque. Ces termes sont des termes modernes qui ne devraient pas être projetés en arrière. Et donc, il a souligné que dans mon article, lorsque j'utilisais les termes écuyer et cadet, c'était des termes anachroniques projetés dans le texte, ce qu'il ne fallait pas faire. Et il avait raison. J'ai eu tort. Et je m'excuse. Que j'essayais de faire valoir un point. Et ce que je veux dire, c'est que Proverbe 22, 6 ne parle pas des petits-enfants. Il ne s'agit pas d'enfants de 5 à 12 ans. Il s'agit de la fin de l'adolescence, comme l'est à peu près tout le livre des Proverbes. Et donc de toute façon, donc c'était mon problème et j'ai un corbeau là-bas et c'est le cas. Michael Fox a raison. Évidemment, il est l'un des leaders mondiaux sur les Proverbes et moi, je ne joue pas dans ces ligues, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je dis, abandonnez Hildebrand. Je veux peut-être essayer un autre terme. Et c'est celui qu'Albright a utilisé lorsque, dans cette déclaration des références acadiennes selon lesquelles il était au 14e, 15e siècle avant J.C., il a utilisé le mot, retenu. Et maintenant quoi? Maintenant vous dites, qu'est-ce qu'un mandat? Vous dites, c'est quelque chose que vous mettez dans vos dents et tout ça. Alors, dites-vous, Hildebrand, vous utilisez ce mot anglais, retenu. Ils vont se mettre des trucs sous les dents. Non. Retenez, ce que cela signifiait lorsqu'Albright l'utilisait, c'était une personne qui était un serviteur formé aux compétences militaires. Et donc, ou les compétences en général, c'était un serviteur qu'il était, et on les appelle des serviteurs. D'accord. Maintenant, je ne le fais pas, nous ne pouvons pas non plus utiliser ce mot. D'accord. Parce que le mot comporte trop de bagages en termes dedans. Nous ne devrions donc pas utiliser ce mot. Mais dans Genèse 14:14, Abraham prend ses 318 serviteurs, ceux-ci ne sont pas les nôtres, ses serviteurs, si vous voulez, ce sont ses serviteurs, ce sont ses serviteurs qui sont entraînés à la guerre et ils vont après Kedorlaomé et sauvent l'eau du Main. Et puis avec Sodome et Gomorre, les gens qui ont été emmenés. Alors ça, mais bon, abandonnons le mot, mais réfléchissons simplement au concept. D'accord. Donc ces narines qui sortent, ce sont des adolescents en retard qui sont des domestiques, qui ont des spécialités. Ils sont entraînés à la guerre et, jeunes hommes, ils partent se battre. Maintenant, ce ne sont plus des guerriers aguerris. Ce ne sont pas des Goliaths. Ce ne sont pas des guerriers de niveau Joab ou Abner. Ce ne sont pas des guerriers chevronnés, mais ce sont de jeunes guerriers qui sortent et pénètrent dans le monde des adultes. Et voilà, c'est là mon point. Et ne les appelez pas écuyers ou cadets. J'avais tort de faire ça. Et c'était anachronique. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas de petits-enfants. Ce ne sont pas des petits-enfants. Proverbe 22:6. Alors maintenant, nous avons regardé Anak et nous avons dit, vous savez, éduquer un enfant. Et nous avons dit, eh bien, en fait, c'est un peu comme célébrer la première utilisation ou consacrer un bâtiment, un mur, un temple, et ce genre de choses. C'est donc une célébration de la première utilisation et de la dédicace de quelque chose de génial. Et puis le nar dont nous nous rendons compte n'est plus un petit enfant. Le nar est un adolescent tardif dans le livre des Proverbes. Et donc, quand vous parlez d'éduquer un enfant, vous ne parlez pas d'un enfant. Vous parlez d'un adolescent en retard. On l'appellera un jeune qui est sur le point de percer dans l'âge adulte. Et cette transition-là. Voilà donc qui est le nar. Nous avons maintenant une section supplémentaire à faire ici. Et c'est ce que signifie selon sa voix? Alpi Darko. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord. Et donc selon sa manière, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous explorerons cela ensuite. Très bien, après avoir examiné l'entraînement et les options pour cet entraînement, Anak et Nahar, mon enfant. Et nous avons dit qu'il n'y avait vraiment pas d'enfant. Cela ressemblait davantage à un adolescent tardif dans le livre des Proverbes et ailleurs dans l'Écriture et même à Ougari. Nous voulons maintenant nous concentrer sur Alpi Darko, à sa manière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, jetons un coup d'œil à cela ici. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle, il y a essentiellement 5 points de vue à ce sujet. D'accord. Je vais donc prendre les 5 points de vue et les parcourir en quelque sorte. La vision morale. Et le point de vue moral de M.C. Kane est qu'il existe une bonne façon de vivre vers laquelle le jeune devrait être orienté. Donc, c'est la voie dans laquelle il devrait aller et il devrait signifier qu'il y a un bon chemin et que quelque chose doit être dirigé. La version King James fait cela, ESV et NIV et je vais citer et NIV et NLT, je suis désolé, et NLT fait, le bon chemin, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas en hébreu, mais ils sous-entendent cela par implicite, dans la voie qu'ils devraient suivre. Doug Stewart remarque qu'il n'y a pas de « devrait » en hébreu. L'hébreu n'a pas de « devrait ». C'est simplement, à sa manière, ou, selon sa manière, il n'y a pas de « devrait » là. Cela devrait donc être mis dans la version King James et suivi par la plupart des traductions, par la suite. Souvent, la voie est juxtaposée à un qualificatif moral. Ainsi, le chemin, le derek, le chemin, odo en grec, est généralement accompagné d'un qualificatif moral. Pour vous en donner un exemple classique, nous pourrions citer Psaume 1, 6. D'accord. Car le Seigneur connaît la voie des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes. Voyez là le qualificatif moral, la voie des justes. Mais la voie des méchants, et maintenant vous avez là une sorte de parallèle de contraste, la voie des méchants périra. Ainsi, la voie des justes contraste avec la voie des méchants. Donc, les deux manières, ce genre de choses, et les deux manières sont un thème important dans la sagesse, la littérature, etc. Proverbe 9, 6, 2, 12, Proverbe 2, 12 et 20, là où il y en a, la voie, et puis il est dit juste tout ce genre de choses. Il y a un qualificatif moral à cela. Et donc, mais le problème est qu'il n'y a pas de qualificatif moraux dans Proverbe 22, 6 à sa manière, selon sa manière, il ne dit pas la voie des justes ou la voie des hommes droits ou ce genre de choses. C'est juste qu'il n'y a pas de qualificatif moral. Ainsi, le « devrait » est ajouté. Il existe donc une lecture alternative fascinante pour tout ce proverbe de Clifford suivi de Stuart et Jonathan Eken. Avertissement, Proverbe 22, 6 est un verset, un avertissement concernant l'éducation d'enfants égocentriques, de type ne jamais dire non, qui dureront jusqu'à l'âge adulte. En d'autres termes, si vous gâchez l'enfant en ne lui disant jamais non, l'enfant va être égocentrique et narcissique. Et nous voyons de nombreux exemples de cela, même dans la situation actuelle, même avec des fils de 50 ans qui ont fait de très mauvaises choses et dont les parents continuent, vous savez, à trouver des excuses pour l'enfant. D'accord. Proverbe 29, 15 fait écho à cela. Et Proverbe 29, 15 dit, « Le bâton de réprimande ou le bâton et le reproche donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même, c'est un nahar, donc ça ne parle pas de peu, un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Et c'est bien là que les proverbes parlent de laisser l'enfant livré à lui-même. Et cela se produit actuellement dans notre culture. Et donc, Clifford, Stuart et Eken en parlent et tout cela bouleverse alors. Ainsi, au lieu d'éduquer un enfant sur la voie qu'il devrait suivre, disent-ils, éduquer un enfant et laisser le suivre son chemin. Et puis quand il sera vieux, tu ne pourras plus le récupérer. D'accord. C'est donc comme ça qu'ils le prennent. Vous voyez comment cela renverse le sens de cela plutôt que de former, d'éduquer un enfant sur la voie qu'il doit suivre dans le bon sens et sur le bon chemin, cela revient à dire non, si vous lâchez la main et que vous ne dites jamais non à l'enfant et vous lui cédez continuellement, alors cela entraîne l'enfant sur une mauvaise voie d'où, quand il sera vieux, il ne s'écartera pas de cette voie d'égocentrisme et de ce comportement narcissique. Non, dans le chemin, il devrait aller, dans le chemin qu'il devrait, n'est pas en hébreu. C'est simplement à sa manière. Ambiguïté intentionnelle, cela inverse les significations qui ont été acceptées par la plupart et soulève donc un point d'ambiguïté intéressante. Le proverbe fait-il quelque chose comme ça de manière ambiguë, volontairement ambiguë? Vous dites, attraper dans les deux sens en même temps. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si une personne laisse un enfant, ne dit jamais non à un enfant, le laisse suivre son propre chemin, cède toujours à lui et ce genre de choses qui vont détruire l'enfant, c'est vrai, mais est-ce que c'est ça dit ce proverbe? C'est ma question. Ce qu'il dit est vrai. Un enfant livré à lui-même devient ainsi. Mais est-ce ce qu'enseigne ce proverbe? Vue vocationnelle, une deuxième approche, elle la considère comme ce que nous appellerons la vision vocationnelle. Le premier était le point de vue moral, puis il avait un point de vue positif, il devait disparaître, et puis il y avait le point de vue de Clifford, Stuart, Eken, qui a inversé la tendance, il fallait simplement le laisser suivre son propre chemin. Il y a en quelque sorte un aspect moral. Voilà donc le point de vue moral, positif et négatif. Nous disons que c'est le point de vue moral, positif et négatif. La deuxième vision est la vision vocationnelle. Autrement dit, selon sa méthode, il prépare professionnellement l'enfant à son destin et ensuite il partira et fera cela pour le reste de sa vie. L'inquiétude moderne concernant la sélection professionnelle n'est pas un problème majeur dans l'ancien Proche-Orient, où le fils était souvent formé dans le même métier que son père. Alors, quand nous entrerons à l'université et que vous demanderez, qu'allez-vous faire? Où veux-tu aller? Vous êtes à l'université maintenant, vous devez faire des choix de vie en termes de domaine dans lequel vous voulez aller et tout le reste. Ma fille a obtenu son diplôme universitaire et a ensuite passé, je ne sais pas, 2, 3 ans avec nous, puis elle a finalement compris 2 ou 3 ans après l'université, puis elle y est retournée et elle a fini par devenir infirmière praticienne, mais cela a pris elle à un moment pour comprendre les choses professionnelles. Dans notre culture, il n'y a qu'une multitude d'opportunités professionnelles qui s'offrent aux jeunes d'aujourd'hui et cela peut devenir très déroutant et si vous n'êtes pas prompt à vous décider sur une seule, je veux dire, j'étais à l'origine, j'étais en génie électrique et les mathématiques et maintenant j'enseigne la Bible, vous savez, 40, 50 ans plus tard. Donc, vous choisissez une chose, mais dans notre culture, la vocation professionnelle ayant de nombreuses options crée une certaine anxiété chez les jeunes. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Jésus était le fils d'un charpentier et il l'appelait fils de charpentier, Matthieu chapitre 13, 65, mais dans Marc 6, 3, il est aussi appelé, Jésus lui-même est appelé le charpentier. Il suivit donc la voie de son père, comme c'était souvent le cas à cette époque. Les proverbes s'intéressent davantage aux questions de droiture, d'honnêteté, de sagesse, de justice, de diligence, de méchanceté, de paresse, plutôt qu'à un choix professionnel. Il s'agit davantage de problèmes de caractère, de vertu et de problèmes de caractère. À propos, il existe une série très intéressante de la Francis Asbury Society sur les 7 vertus et vices, qui fait un travail merveilleux et publie ses vidéos sur YouTube. La Francis Asbury Society vient de Wilmore, Kentucky, où se trouve le séminaire Asbury, qui compte des gens vraiment formidables, dont Craig Kinner, David Bower et bien d'autres. Tenney, qui en est le président, est un véritable visionnaire. Alors, mais de toute façon, ouais, alors, d'accord. Aptitudes personnelles, du point de vue des aptitudes personnelles, la formation doit être adaptée aux capacités et aux intérêts uniques de l'enfant. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Vous savez, vous découvrez ce que l'enfant aime et vous essayez d'améliorer et de suivre ses intérêts et ses choses. Toy et Esterly y voient davantage un élément du destin ou du destin, pour lequel l'enfant doit être formé à ce qui est destiné. Et encore une fois, je n'entre pas dans le genre de destin qui est destiné à ceci ou à cela. Et on ne sait jamais. Je ne sais pas. C'est assez difficile à dire. Comme je l'ai dit, j'ai été formé en génie électrique et ici j'enseigne la Bible. Mais le fait est que la formation en génie électrique me permet de créer ce site web et tout ce genre de choses. Donc, le Seigneur utilise ces choses dans notre passé, mais aurais-je pensé à cela dans le futur, ce n'est pas possible. Et donc de toute façon, de Liszt j'utilise la citation, la voix des Égyptiens, Ésaïe 10, 24, et la citation, voix de l'aigle dans le ciel, la citation, voix de l'aigle pour dire la manière de se déplacer qui est caractéristique du aigle et donc la manière unique de l'enfant. Et donc, je pense que c'est un bon principe pédagogique pour découvrir quels sont les intérêts de l'enfant et dans quoi il est bon et tout. Certains de mes enfants étaient vraiment, vraiment, j'étais spécialisé en mathématiques à l'université et toujours, c'est venu naturellement. Et j'avais un très bon professeur de mathématiques, Monsieur Bessel, quand j'étais au lycée, qui était également notre entraîneur de basketball. Et nous avons vraiment cliqué. Et donc, quand je suis allé à l'université et que j'ai commencé à faire tous ces calculs, cela m'a été très facile. Cela n'a pas toujours été vrai. Ce n'était pas facile. C'était assez dur, mais quand même. Alors ici, j'ai eu d'autres enfants que, je veux dire, les pousser vers les mathématiques auraient été fous. Je pense que les mathématiques sont le langage de l'univers et c'est le langage dans lequel Dieu a créé l'univers avec ses mathématiques. Mais si vous essayez de le dire à votre enfant qui déteste les mathématiques, cela ne fonctionne pas très bien. Et donc, son aptitude était de se lancer dans l'informatique et de ne plus jamais faire de mathématiques. Ironiquement, tout l'ordinateur est basé sur les mathématiques, mais je n'insisterai pas sur ce point. Ainsi, le comportement de l'enfant, c'est un parent sage qui découvre le comportement de son enfant à cet égard. Donc, je ne veux pas rabaisser cette vision, celle des aptitudes personnelles. Cela a sa place et semble correspondre à l'hébreu, à la manière des Égyptiens, la manière de l'aigle et la manière habituée à cela. Et cela semble être le cas, mais ce qui m'intéresse, c'est que de Liszt relie cela au nahar, à l'enfant. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il ne s'agit pas de l'enfant en tant que jeune enfant, mais de l'intérêt qu'il porte lorsqu'il devient jeune et entre dans l'âge adulte. Exigence personnelle, c'est ce que j'appellerais en quelque sorte classiquement le point de vue Stuart Clifford, selon lequel quelques autres renversent les proverbes. Si vous laissez l'enfant l'entraîner à la manière qu'il veut, alors vous allez détruire l'enfant quand il sera vieux, vous ne le récupérerez jamais. Il va être tellement égocentrique et narcissique que vous ne pourrez pas le récupérer. Et nous avons beaucoup de ce genre de personnes qui se présentent en politique et ailleurs. Et de vrai, ce mot, de vrai, note judicieusement Stuart, ne figure pas dans le texte. C'est à sa manière. Et Stuart a raison sur ce point. Et cela colle bien avec Proverbe 19 ou 29, 15, l'enfant livré à lui-même déshonore sa mère. Et c'est ainsi qu'il y a eu les proverbes, le dicton qu'ils essaient de suggérer est vrai. La question est de savoir si ce proverbe enseigne cela. Ce qu'il suggère, c'est que le parent qui laisse l'enfant suivre son propre chemin, insensé et égocentrique, restera dans cet état errant lorsqu'il sera vieux. Et nous avons tous vu les enfants de cette façon. Le terme nahar, cependant, dans le livre des Proverbes, désigne un jeune enseignable. C'est lié au fou, mais le nahar, où le fou met la verge dans son dos et le fou s'y enferme, le nahar semble être enseignable. Et donc, je ne veux pas dire que c'est le nahar, l'enfant, former l'enfant ou dédier l'enfant, célébrer la première utilisation de l'enfant. Et je ne veux pas mettre cela au second plan et simplement les rejeter en disant, non, c'est négatif. Il s'en va dans la folie parce que ce n'est pas ainsi que nahar est habituellement utilisé dans le livre des Proverbes et ailleurs. C'est une personne de statut et généralement une personne qui fait quelque chose de bien. C'est pourquoi je ne serai probablement pas de cet avis. Le point de vue nahar, je souhaite donc suggérer un point de vue basé sur le nahar sur ce que signifie suivre son chemin, son propre chemin. Et je dirais une vision nahar ou basée sur les enfants. Selon cela, sa manière de faire en tant que nahar, le statut qu'il a en tant que nahar, nous avons dit que ce n'était pas une question d'âge, mais plutôt de statut et de responsabilité que le nahar soit une personne de statut. C'était comme si Josué était le nahar de Moïse, son bras droit. Premièrement, pas l'enfant, il soutient la formation des jeunes enfants. Ce jeune est à la veille de l'âge adulte et est abordé dans ce livre de sagesse dans Proverbes 1, 4r, le livre s'adresse à un nahar, dont nous avons dit qu'il était un adolescent tardif et pour donner de la prudence aux simples et à la connaissance et discrétion à la jeunesse ou aux jeunes. Pour les jeunes, nous parlons d'un jeune homme en fin d'adolescence qui, vous savez, son père le met en garde à propos de toutes ces choses, sexuelles et autres, et vous savez, qu'il met en garde. La formation n'est pas non plus la question. Plutôt l'idée de célébrer ou de consacrer l'usage initial de comme dans les Proverbes ou comme dans Genèse 14, 24, où le nahar est un combattant agréé. Ce n'est pas un guerrier comme Abner ou Joab, mais c'est un assistant personnel d'Abraham. Tout comme un porteur d'armure ou un assistant personnel, une personne responsable. Et donc, il a en quelque sorte progressé vers cette place de statut et de respect. Et ainsi, cela se voit dans Genèse 14. Selon ce point de vue, le proverbe donne des conseils, non seulement à « mon fils », ce qui est explicite lorsqu'il est membre de la famille, mais les proverbes donnent également des réflexions sur le comportement des serviteurs et sur la manière dont les serviteurs doivent se comporter devant le roi. Et comment ils doivent manger et comment ils se comportent devant le roi. Donc, cela dirait le nahar, l'enfant qui suit son chemin et le chemin qui est basé sur qui il est en tant que nahar et ce qu'on attend de lui. Ainsi, ce nahar serait, par exemple, Proverbes chapitre 17, 2, un serviteur qui agit avec sagesse, un serviteur qui agit avec sagesse régnera sur un fils qui agit honteusement et partagera l'héritage comme l'un des frères. Donc ici vous avez un serviteur et le livre des Proverbes parle d'un serviteur qui réussit bien alors que les fils ne vont nulle part et mauvais, le serviteur recevra en fait l'héritage à la place de l'un des frères. Et ainsi, le livre des Proverbes aborde cela, chapitre 29, 19, par de simples mots, un serviteur n'est pas discipliné car même s'il comprend, il ne répondra pas. Maintenant, je veux tout mettre en place maintenant. Et d'abord, je veux commencer par le mot Hanok, qui se traduit par train up. Et je pense que c'est probablement mieux, nous avons examiné les cinq utilisations de ce mot, tout impliquant la dédicace ou l'initiation de la première utilisation et célébration du temple ou d'un autel qui a été construit ou de la maison d'un homme qui l'a d'abord utilisation initiale de cette maison ou du mur de Jérusalem ou d'une statue de Nabucodonosor. Vous célébrez l'utilisation initiale et consacrée peut-être. Ce seraient donc les mots de la gamme et nous voulons travailler avec célébrer l'utilisation initiale ou la consacrer plutôt que de nous former d'une manière pédagogique. Il s'agit plutôt de célébrer l'usage initial du passage d'un statut à un autre, d'un domaine profane à un domaine profane. Et maintenant, nous disons que le garçon est peut-être en train de s'orienter vers un autre domaine, celui de la virilité. Et donc, l'enfant, éduquez un enfant. Alors, entraînez-vous, nous savons, vous savez, nous avons quelques problèmes avec le mot « entraîner ». Nous pensons qu'il existe de meilleures façons de prendre cela en compte, de célébrer l'utilisation initiale ou de le consacrer. Le mot « enfant » est clairement nahar, il ne fait pas référence aux petits-enfants et à l'éducation des enfants en bas âge. Évidemment, c'est vraiment très important pour les parents. Les premières années de l'enfance sont d'une importance cruciale, mais elles s'attaquent à un problème majeur. Un nahar est un jeune qui est sur le point de devenir adulte et qui entre dans le monde des adultes. Il est plutôt jeune, il est jeune, mais il l'est quand même, il a beaucoup à apprendre pour lui. Et donc, il valorise la sagesse et il a besoin de sagesse. Il est regroupé avec un simple, ou un simple, disons simplement inexpérimenté, c'est un bon mot pour lui. Il est inexpérimenté, mais il a en quelque sorte franchi le pas et il est prêt. Il est devenu la référence. Et donc, c'est un nahar maintenant, mais ce n'est pas un guerrier et ce n'est pas le patriarche lui-même, mais c'est un serviteur, ce genre de choses. C'est donc un jeune, probablement en fin d'adolescence, peut-être un serviteur ou un courtisan. Je déteste utiliser ces mots parce que, à cause de mon problème avec Michael Fox, il me corrigeait correctement en utilisant écuyer et cadet, donc je ne veux pas instituer de nouveaux mots comme serviteur et courtisan et découvrir que ceux-ci sont également anachroniques, en lisant mes propres affaires y sont remises. Mais je dirais que le nar semble être une personne de statut formée dans un but précis. Et donc, il est, en fait, il est porteur d'armure ou il est un assistant personnel qui prépare la nourriture pour les anges lorsqu'ils viennent vers Abraham. Il semble donc prêt. Les espions qui sortent sont probablement très doués pour espionner rapidement et ces jeunes, vous savez, sont agiles, ce genre de choses. Et donc le nar, je veux dire, est un adolescent tardif, pas un enfant. Et donc, je pense que la traduction, un enfant, former un enfant, je pense que cela induit les gens en erreur en leur faisant penser à la formation de la petite enfance alors que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Selon le chemin qu'il doit suivre, c'est selon le chemin du nar. En d'autres termes, en tant que jeune, sa façon d'entrer dans le monde des adultes, où il se trouve, et sa manière, selon sa manière, est comme celle d'un aigle qui vole et a un certain mouvement d'une certaine manière. Donc, ce nar a une certaine manière et il doit être formé de cette manière, selon sa manière. Donc, selon sa manière, je veux alors rassembler ces trois choses et proposer une traduction. C'est vraiment une traduction maladroite. Et pour être honnête, je déteste les traductions maladroites, mais je vais le faire moi-même désormais. Et cela nécessite plus de réflexion de ma part pour que ce soit fluide et beau. Les proverbes devraient être beaux. Les proverbes doivent être accrocheurs. Un point à temps en vaut neuf. Je veux dire, ça devrait être quelque chose d'accrocheur dont les gens se souviennent. Et ce n'est pas ainsi, mais j'essaie de comprendre le sens, de saisir le sens d'abord. Et puis nous nous soucierions, dans une ou deux ou trois ou quatre ou cinq étapes, de créer d'une manière poétique et imaginative et qui captiverait le lecteur d'aujourd'hui comme à l'époque. Voici donc la traduction que je finis par trouver. Je ne suis pas vraiment satisfait. La traduction est évidemment maladroite, mais elle saisit une grande partie du sens sur lequel je pense que nous avons travaillé. C'est ici. Célébrer le départ initiatique d'un jeune sur son chemin. Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas, laissez-moi le relire. Célébrer le départ initiatique du jeune sur son chemin. Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Maintenant, quelques commentaires supplémentaires. Application moderne. Donc, ce verset a plus à voir avec une personne qui a plutôt l'âge d'une bar mitzvah ou quelque chose comme ça. Un marqueur lorsqu'un garçon est accueilli dans une virilité. Et donc, il y a ce rite de passage dans lequel ils sont jeunes et ils sont dans cette transition entre quand est-ce qu'un garçon, je disais souvent ça dans un de mes cours, quand un garçon devient-il un homme? Une fille a crié dans le dos, ils ne le font jamais. Et il y a, vous savez, donc de toute façon, mais ça, quand un garçon devient-il un homme? C'est un endroit vraiment amusant là-bas. Et cela reviendrait essentiellement à donner aux jeunes le respect et les responsabilités à la mesure de son entrée dans le statut, dans l'âge adulte. L'utilisation initiale du dévouement de cette personne pour faire les premiers pas vers l'âge adulte et ceci et faire cette transition. Et le célébrer et initier la personne, lui consacrer. Donc, il y aurait une cérémonie qui serait en quelque sorte, d'accord, maintenant il est accepté comme ça, cette prochaine étape et il est sur le point de devenir adulte. Aujourd'hui, il est encore un jeune, mais il a franchi cette étape avec succès. Et c'est ainsi que je le prendrai. D'ailleurs, cela correspond au reste du livre des Proverbes, qui s'adresse précisément à ce type de jeunes, aux inexpérimentés, en leur donnant la sagesse. Convient à l'utilisation initiale ou à la dédicace. Cela correspond au jeune et cela correspond à sa manière. Il réunit donc ces trois éléments dans un tout cohérent et suggère l'importance pour les parents de se mettre vraiment du côté de leurs jeunes alors qu'ils entrent dans l'âge adulte, de les féliciter et de célébrer leur déménagement et la fin de l'adolescence, etc. Et c'est vraiment nécessaire. Et beaucoup d'enfants sont morts pour entendre l'approbation de leurs parents pour leurs projets qu'ils explorent, divertissent et expérimentent. Et ils savent qu'ils ont le soutien de leurs parents. Et c'est un, rappelez-vous aussi qu'après tout cela, un proverbe n'est pas une promesse et nous devons le tenir. Qu'est-ce qu'un proverbe? C'est la question suivante. Si un proverbe n'est pas une promesse, qu'est-ce qu'un proverbe? Et nous avons une toute autre vidéo à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ceci. Et j'espère alors que nous pourrons célébrer nos jeunes alors qu'ils entrent dans l'âge adulte, les célébrer et les encourager sur leur chemin afin que leur chemin soit sur le chemin des justes. Merci. C'est le docteur Ted Hildebrand dans son enseignement sur Proverbe 22.6, éduquer un enfant sur la voie qu'il doit suivre.